tu écoutes mon podcast sur Internet ?
Oui, je l'écoute.
Et tu l'aimes ?
Oui.
Et mes garages, tu les aimes, mes garages ?
Oui.
Et mes one-shots, est-ce que tu aimes mes one-shots ?
Oui aussi.
Et mon Tipeee ? Tu tipes mon Tipeee ?
Oui, beaucoup.
Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui avec Fabien. Fabien, ça va la pêche ?
Bonjour.
Nous sommes également avec Emmanuel Méfray. Emmanuel,
salut, ça va ?
Ça va. Nous sommes également avec Maxime. Maxime,
c'est une illusion.
Voilà, c'est ça, parce que tu risques probablement de partir au cours de cette expérience. Il s'agit d'un jeu de Ben Lehman que nous testons. C'est toi, Fabien, qui apporte ce jeu dans ta besace. De quoi qu'il s'agit ?
C'est un jeu qui est sorti la semaine dernière, la tragédie de GJ237B, qui n'a pas encore été traduit. Un jeu de Ben Lehman et de Caitlin Bell, parce qu'il faut quand même...
Répète le titre, s'il te plaît.
La tragédie de GJ237B.
Waouh.
Donc Ben Lehman et Caitlin Bell, hein, et c'est beaucoup sans doute a plus contribué d'après ce qui est dit là que Ben Lehman. C'est un jeu, je profite pour en faire la pub, auquel j'ai eu accès parce que je suis Patreon de Ben Lehman et je vous invite vraiment à aller donner quelques sous. En fait, chaque fois qu'il sort un jeu, tu donnes 2-3 dollars, puis tu reçois le jeu en direct. Donc là, c'est un jeu en 2 pages.
Est-ce que tu veux qu'on fasse un gag pour le Patreon de Ben Lehman tout de suite, là, en live, comme ça ?
I wanna be alive,
pense
I am alive.
Définitivement, faut patreonner Ben Lehman.
On est encore notre séance de chansons stupides de la veille dans le sang, là, non ?
Ouais, c'est ça.
Alors, qu'est-ce que c'est la tragédie de GJ237B ?
Définitivement.
GJ237 est une étoile qui se trouve une naine rouge qui se trouve dans la constellation de Canis Minor. Elle est à 12 années-lumière de la Terre, qui fait qu'on ne la voit pas nous à l'œil nu. Qu'est-ce qu'il y a ?
Ça me paraît très proche.
12 années-lumière, ouais.
Pas 12 000 ?
Non, 12 light years. L'étoile est donc se trouve à proximité de l'étoile Procyon. Voilà.
Seigneur Procyon.
Il y a deux étoiles, il y a deux planètes autour de l'étoile GJ237. Et la deuxième, donc GJ237B, est capable d'accueillir la vie, ce qui n'est pas anormal. L'humanité, à force d'explorer les étoiles, a rencontré beaucoup de planètes comme ça, les a étudiées, les a colonisées et ont commencé à vivre dans ces biosphères. De manière absolument pas inhabituelle non plus, GJ237B a développé la vie unicellulaire, assez faiblarde, un peu comme ce que sur Terre on connaît près des tuyaux de chaleur près des océans.
D'accord.
En revanche, ce qui est
cheminée de soufre
absolument spécifique à GJ237B, c'est que une vie intelligente s'est développée entre ces clades de cellules qui ont commencé avec les années à développer une société et des échanges riches, compliqués, subtils, avec un système de communication et une organisation sociale très développée, que nous ne comprendrons jamais, mais que nous n'aurions même pas pu comprendre. Ils ont dû développer une société, une technologie, mais une technologie qui ne ressemble pas du tout à la nôtre, de l'art, mais de l'art qui ne ressemble pas du tout au nôtre, et peut-être même des déplacements dans l'espace. Mais quoi qu'il en soit, cette société restera éternellement inaccessible. On peut éventuellement regarder à quelques éléments qui restent, quelques artefacts, éléments biologiques, et faire des suppositions. Pourquoi on ne pourra jamais avoir accès à cette société parce qu'au moment où les êtres humains ont mis le pied sur GJ-237B, notre présence a déclenché une catastrophe. Il semble que ce soit à cause de bactéries qui étaient présentes sur le chat du vaisseau, qui se sont répandues à toute vitesse et qui ont détruit la civilisation de GJ-237B. Ce jeu parle de la civilisation de GJ-237B. Pour y jouer, il faut donc ces règles, du papier, de quoi écrire et des 12 que j'ai installé là-haut. Dans la salle, donc on dit là-haut.
Dans laquelle on va jouer.
On joue à la barreau. Eh bien, pas exactement. Parce qu'en fait, j'ai arrangé la salle, je l'ai fermée, et en ce moment, en réalité, la partie a déjà commencé.
D'accord.
Au moment où je vous parle, en ce moment, les colonies multicellulaires de GJ-237B
sont toujours
en vie, présentes là-haut dans la salle où j'ai mis en place.
Et nous, en fait, en y allant, on va jouer ces...
Et nous, au moment où on va entrer...
Putain, c'est génial.
Au moment où on va entrer, on va détruire la civilisation.
Ah.
On ne raconte même pas la catastrophe. Le jeu termine immédiatement au moment où on ouvre la porte et il est tout de suite terminé. Et GJ-237B est donc un jeu à zéro joueur puisque il arrête exactement au moment où
commence.
Nous, en tant qu'humains, on entre dedans.
D'accord, ok. Mais moi, j'ai pas envie d'y rentrer.
Eh oui, mais sauf si tu condamnes éternellement la pièce là-haut de la barreau. Et même si tu la condamnes éternellement, un jour quelqu'un finira par l'ouvrir.
D'accord, ouais.
Voilà.
Donc, on y va ou on n'y va pas ?
Je sais pas, on pourrait faire effectivement le test d'ouvrir. Vous allez voir ce que j'ai mis en place là-haut, mais c'est une partie de jeu de rôle avec, je vous dis, des feuilles, du crayon et des dés. Et personne, en tout cas personne qu'on puisse... percevoir qui sont autour de la table.
C'est quoi ce trip, quoi ? Tu fais tester quoi, là ? Ça va être un podcast de 6 minutes 30, là ?
Ben, je sais même pas si c'est un podcast diffusable ou si... mais ce que je trouve...
C'est un freeform, quoi, en fait.
Je vous propose d'aller déjà ouvrir la porte.
Mais j'ai pas
la
envie,
porte.
Du coup.
Mais non, mais moi non plus, je veux pas.
Moi non plus, je veux pas.
Alors, d'accord, ok, mais la partie ne se terminera pas tant qu'on n'aura pas ouvert la porte là-haut.
Donc il faut ouvrir... Alors attends, le jeu te propose quoi ? Est-ce que le but, c'est justement d'avoir cette discussion entre nous, la joueur, de savoir si on ouvre la porte ou pas ? Ou est-ce que c'est d'ouvrir la porte et de découvrir ce que t'as
j'en
fait ?
J'en ai aucune idée. Je suis à ce point, au moment là où je te parle dans le micro, j'en connais autant que toi du...
parce que t'as préparé quelque chose là-haut.
Attends.
Donc t'en sais quand même un peu
plus. Oui, mais je peux te dire ce qu'il y a là-haut, si tu veux. Il y a des feuilles sur une table, il y a des dés, il y a des crayons, des chaises, une lumière allumée et rien d'autre. Mais simplement, je peux te dire qu'à partir du moment où on ouvrira la porte, la partie là-haut prendra fin.
Attends, si la partie prend fin, pourquoi il y a des feuilles ?
C'est comme exactement comme les civilisations unicellulaires de GJ-237B. C'est parce que il se passe quelque chose qui nous échappe.
Ouais.
On est d'accord que le jeu. C'est là en ce moment, parce que si le jeu se termine au moment où on ouvre la porte...
Ben de notre point de vue, oui, d'explorateur humain.
En fait, ce qui est dommage, c'est que si tu m'avais dit plutôt, tu vois, ou sinon je prends la caméra et je nous filme en train de monter dans les escaliers et de jouer à ce jeu...
Ou alors c'est eux, à l'intérieur, ils sont les trucs unicellulaires, ils sont en train de jouer au jeu de rôle qui est nous. Donc en fait, ils vont se détruire eux-mêmes. C'est juste qu'on en a pas conscience.
Oui, le tri. Il n'y a pas de récursion comme ça supplémentaire.
Bah non, mais.
Et justement.
Non, mais l'hypothèse de Maxime est parfaitement bonne. On peut très bien imaginer que ces gens sont en train de faire la partie qui correspond à chacun d'entre
nous. C'est pas ce que dit le texte
non,
du jeu. Pas,
non, mais on s'en fout. On s'en fout de ce que dit le texte du jeu. On est déjà dans le vide fertile du jeu, là. On est déjà en train de.
Dans le mainstream, en tout cas.
Dans le mainstream, pardon. Ouais. Donc.
Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce podcast, quand même ? Parce que c'est un podcast qui est très, très. Évidemment, parce que c'est un jeu qui est très, très. Très bizarre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il interroge ce que c'est qu'un jeu de rôle. Il interroge ce que c'est qu'un... Parce qu'évidemment, un jeu de rôle avec zéro joueur, c'est presque comme l'urinoir de Duchamp.
Mais là, il y a des joueurs, c'est nous les joueurs.
Ben non, parce que le jeu parle de la civilisation de GJ-237B, à laquelle nous n'aurons jamais accès. On peut l'imaginer.
Ben
on peut se raconter, on peut se dire, ah ben peut-être que ça aurait été comme ça, mais on n'y aura jamais accès directement.
En fait, juste, on sera joueur, on sera dans nos personnages, juste à l'instant où on ouvrira la porte, et à ce moment-là, le jeu s'arrête, puisque la civilisation est détruite.
Exactement.
Donc il y aura quand même un point unique pendant lequel on sera en train de jouer, et il y aura, en l'occurrence, 4 joueurs.
C'est ça, ouais.
Mais du coup, c'est un jeu instantané qui s'achève. Sa condition d'achèvement, c'est le simple fait qu'il commence. Ouais.
C'est un peu comme le jeu auquel vous avez tous perdu.
Oh, merde.
Moi, j'ai gagné parce que je joue à une variante.
C'est vraiment spécial. Qu'est-ce qu'on peut dire de...
Alors, je pense qu'on peut discuter de ce que c'est qu'un jeu de rôle, tu vois. Ça, c'est, où, en fait... Ce qui est intéressant,
est-ce que Ben Lehman a décidé et donc
Ben Lehman et Kathleen Bell. Et
Kathleen Bell, voilà, que je ne connais pas, donc je suis désolé si j'écorche son prénom. Kathleen Bell. Est-ce qu'ils l'ont inscrit ce jeu de fête dans l'histoire des jeux de rôle? Est-ce qu'ils ont dit c'est un jeu de rôle?
C'est marqué A Role Playing Game for No Players by Ben Lehman et Kathleen Bell.
D'accord, très bien.
Donc voilà, alors t'es déjà en train d'entrer dans la discussion de est-ce que c'est un jeu de rôle. Je rappelle, enfin. Alors ça, on peut entrer tout de suite dans le truc. Une réflexion qu'on s'était faite un moment à la cellule, c'était de se dire, finalement, y a beaucoup de gens qui disent « Ah ben ça, c'est pas du jeu de rôle, ça, c'est pas du jeu de rôle, etc. » Mais en même temps, personne n'arrive à nous dire ce que c'est qu'un jeu de rôle. Pourquoi ? Parce que le jeu de rôle est une pratique humaine et que comme toute pratique humaine, elle se redéfinit en permanence, elle se redéfinit par la pratique des gens. Et donc que la seule définition fonctionnelle, ce qui ne veut pas dire que c'est la seule, hein. Il peut y avoir d'autres définitions qui servent pour penser le jeu, pour avoir une réflexion théorique plus poussée, mais c'est de dire qu'un jeu de rôle est un jeu à partir de... Un jeu de rôle est un jeu de rôle à partir du moment où son auteur, ou même les gens qui l'utilisent, considèrent qu'il s'agit d'un jeu de rôle.
Absolument, ouais.
Et je maintiens ça, y compris parce que j'entends déjà des gens qui vont pousser ça dans l'absurde en disant « Ah oui, mais un mode d'emploi de machine à laver, ça peut devenir un jeu de rôle. » Ben, si des gens arrivent à le prendre en main, et à en faire ce que eux estiment être un jeu de rôle, je pense que oui. Je vais jusqu'au bout de la définition. Et pourquoi je tiens tellement à cette définition ? Parce que c'est une définition qui fait confiance aux praticiens. Qui fait confiance aux gens qui jouent en disant si vous voyez les choses comme ça, après tout quelqu'un ou aux auteurs ou quelqu'un qui dit moi mon jeu je l'inscris dans la filiation du jeu de rôle et personne fait ça gratuitement quoi. C'est parce que j'estime que il apporte quelque chose parce que ma pratique ressemble à une pratique que j'ai eue par ailleurs dans le jeu de rôle. Et que même si tout ne se ressemble pas, c'est la définition, parce que chez Wittgenstein, il y a un truc super intéressant dans les recherches philosophiques, c'est l'idée d'air de famille. Ouais. Quand tu prends une photo de famille, tout le monde ne se ressemble pas, d'accord ? Il y a des gros nez, des petits, des grands, il y a des bruns, des blonds, enfin tout ce que tu veux. Mais de loin en loin, les gens se ressemblent. Tu ressembles toujours un petit peu... Moi, paraît-il, je ressemble beaucoup à mon grand-père et à mon oncle.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, toi qui les as pas connus.
Ils sont là-haut dans la pièce, ils vont disparaître quand on ouvre. Okay. Je les imagine bien en tout cas.
Mais par exemple, je ressemble assez peu à ma petite sœur ou à mon père. Mais ma petite sœur et mon père se ressemblent beaucoup l'un à l'autre, et ma petite sœur ressemble beaucoup à ma mère qui ressemble à son père, c'est-à-dire à mon grand-père. Donc si tu veux, de loin en loin, comme ça, il y a un air de famille. Et justement, Wittgenstein essaie de définir qu'est-ce que c'est qu'un jeu. Et en essayant de définir un jeu, il dit moi j'arrive à une définition de ce que c'est qu'une définition par air de famille, parce que les jeux se ressemblent un peu les uns aux autres, mais si tu prends le football et le jeu de rôle, t'y arrives pas.
Ouais, ça me fait énormément penser à une vidéo que j'ai vue récemment sur quelqu'un qui avait fait d'ailleurs une vidéo sur la comparaison entre le jeu de rôle et les courants politiques. Très intéressant, qui utilisait les alignements de dés pour parler de trucs politiques.
Tu te souviens de... On peut taguer la vidéo.
Ça s'appelle Esprit Critique.
Esprit Critique.
Voilà. Et il avait fait une vidéo là récemment sur le racisme où il explique qu'en fait, la définition même d'espèce est extrêmement floue parce qu'en fait, quand on prend la définition de type appartenir à la même espèce de créatures qui peuvent se reproduire, le problème, c'est que de proche en proche, t'as la créature A qui peut se reproduire avec la créature B qui peut se reproduire avec la créature C avec la D, mais la A est plus fertile avec la D. et qu'en fait ça, c'est de et il applique ça aux êtres humains en fait, qu'il y a toujours eu des mix dans les populations. Donc en fait, si tu t'amuses à réfléchir, tous tes ancêtres, enfin au bout de 10 générations en gros, toutes les personnes qui vivaient sur Terre à cette époque-là est forcément ton ancêtre d'une manière ou d'une autre. Et du coup, c'est en gros, ça interroge la question de frontière et la question de seuil. À partir de quand est-ce qu'on peut dire ceci n'est plus ceci? Quel que soit le critère qu'on choisit, ça va être extrêmement compliqué parce qu'en fait, de proche en proche, si on laisse les praticiens, enfin, moi je suis pour ta définition, mais si on laisse les gens dire ceci est du jeu de rôle, on va arriver au bout d'un moment à peut-être, ouais, le cinéma c'est du jeu de rôle. Parce que, même, mais ça demanderait peut-être un peu de mauvaise foi, mais n'empêche que de proche en proche et par ne serait-ce que communication des pratiques, en fait, moi ce que j'ai bien aimé dans cette définition, c'est qu'elle, enfin dans cette vidéo, c'est qu'elle remet complètement en cause la notion de frontière.
D'accord.
Que toutes les frontières sont floues et qu'il n'y a que des spectres de couleurs. C'est-à-dire que le rouge, c'est pas du bleu, mais quand tu mets du rouge et du violet très rouge l'un à côté de l'autre, tu fais pas la différence, puis tu fais une gradation, puis tu fais une gradation, et en fait, à partir de quand c'est passé du rouge au bleu ?
Mais c'est le paradoxe Sorite, ouais. Dont on a beaucoup.
Et par rapport, par rapport à ce que tu dis, je trouve que c'est une.
Je reviens sur le jeu de rôle, là, c'était une aparté. Donc.
Ouais, mais. Effectivement, c'est la définition que j'utilise là, c'est une définition qui suppose que les gens sont de bonne foi. Mais c'est le cœur de toute démarche. Si tu commences à penser que les gens en face de toi sont pas de bonne foi, il y a plus de discussion. Tu pars très vite dans des réflexions autour du complot. Et donc, oui, voilà, moi, c'est une forme de confiance que je fais dans les gens. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire mes excuses, parce que j'ai utilisé à une époque le terme « machine à saucisse ». Je ne pensais pas l'utiliser de manière péjorative, mais c'est vrai qu'objectivement, il est péjoratif. Et on l'utilisait, alors c'était pas exact, je n'utilisais pas exactement pour exclure certaines pratiques, mais en tout cas pour faire une limite que je n'aurais pas dû faire.
Ouais.
Et donc, si tu veux,
Parce que tu disais les machines à saucisses, ce n'est pas du jeu de rôle.
J'ai jamais dit les machines à saucisses, voilà, c'est pas du jeu de rôle. Donc, mais enfin, quand même, si tu veux, c'était une forme de réification.
Ce sont des petites excuses. Parce que ce qu'on disait plutôt, c'est. Moi en tout cas, ce que j'ai écrit dans l'entretien à Coralie David de plus con autour des machines à saucisses, je pense que si vous voulez voir les trucs les plus cons que j'ai écrit autour des machines à saucisses, il faut lire l'entretien à Coralie David, c'est là que j'ai dit les plus grosses conneries. Et ce que je disais, c'est que pour moi, c'est tellement pas intéressant comme type de jeu, et encore, j'avais pris une machine à saucisses très extrême, que je dirais que c'est pas du jeu de rôle, mais j'ai jamais dit explicitement, je crois pas avoir
oui,
fait cette erreur.
Mais si tu veux, je sais qu'à posteriori, en repensant à mon attitude, je sais qu'il y avait un peu de...
Il y avait un biais.
Il y avait un biais, parce que le problème, c'est pas d'être insultant.
Je suis d'accord avec
toi. Le problème, c'est d'être excluant.
Ça
c'est un vrai problème. Pourquoi parce que si
tu peux peut-être faire référence à l'article ceci n'est pas du jeu de rôle qui est inscrit sur les ateliers imaginaires,
oui, tout à fait, qui est très court.
Qui est très court.
Mais le problème de fond de ça, c'est que ça empêche le jeu. Enfin, si on n'utilise pas une définition comme ça, ou si on veut imposer une définition quelle qu'elle soit en dehors d'une définition très inclusive, c'est que ça empêche le jeu d'évoluer et de s'enrichir. Parce qu'en fait, les formes, si vous êtes attaché à des formes, disons, anciennes de jeu, elles disparaîtront pas. Simplement, cette définition-là permet à de nouvelles formes d'entrer dans le champ et de l'enrichir. Et au bout d'un moment, tu dis, ben oui, moi, je joue pas à tous les jeux de rôle. De la même manière que si tu dis pas, si t'es tennisman, on ne dira pas, ah, t'adores le bowling. Alors, ben non, je joue à une forme de sport. Je suis sportif, mais à une forme de sport. Ben, c'est la même chose pour le jeu de rôle. Et c'est super important pour le médium d'évoluer comme ça. Ouais. La peinture, c'est la même chose, si tu veux. Quand il y a les impressionnistes qui sont arrivés, il y a des gens qui disent, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de composition, c'est n'importe quoi.
C'est pas de la peinture.
C'est pas de la peinture.
Aïe.
Ben, et alors, aujourd'hui, qui oserait dire que l'impressionnisme, c'est pas de la peinture? Tu vois,
Manu voulait réagir.
Pardon.
Mais peut-être c'est passé.
C'est un peu passé. Mais c'est vrai que si on reprend l'analogie de Maxime, quand on est dans le bleu, on sait quand même qu'on n'est plus dans le rouge. Et qu'après, c'est aussi beaucoup une histoire de ressenti. Par exemple, tu vois, moi, le fait de ne pas être monté là-haut, j'ai la sensation de ne pas avoir joué à ton jeu.
Ouais, mais justement, on va y aller.
Moi, j'ai pas envie de dire que j'allais y aller là, comme ça, tout seul.
On va y aller.
Notre partie.
Y aller, puis parce que j'ai aussi envie d'avoir votre ressenti sur l'action qu'on est en train de faire en allant.
Il y a encore des choses à dire.
Moi, en fait, ce que je vais contester dans ce podcast, je le sens, c'est le zéro joueur, en fait. Pas le fait que ce soit un jeu de rôle, ça c'est incontestable,
ouais, ça marche.
Mais le zéro joueur. Allez, on y va, on joue, et puis on y va. Ok, fin de la partie de GIGN.
Non, tragédie 200, de GJ 237B.
Je sais, mais j'ai pas retenu le nom en fait. GIGN 2338.
Des gros flingues, on a cassé du zadiste.
THX.
On a cassé du mec de l'unicellulaire. Fabien, qu'est-ce que c'est que cette expérience? Je crois que c'est le podcast le plus conceptuel de la cellule que j'ai jamais vu.
Merci beaucoup, c'est un beau compliment.
Donc, alors là, je dois dire quand même à Ben Lehman que c'est quand même un jeu qui a un sacré potentiel. Je pense que c'est un jeu qui a du potentiel. Je regrette vraiment, Fabien, que tu
nous aies
dit ce que... Ouais, voilà, que tu sois venu jouer avec nous, que tu nous aies dit ce que tu avais caché avant.
Ouais.
Je pense que c'est un jeu dans lequel il faut que le meneur de jeu, enfin l'animateur, parce qu'on ne peut plus parler à ce moment-là de meneur de jeu, ne soit pas aussi participant que cela.
D'accord.
Ouais,
parce je vous ai dit les informations qui sont données dans le jeu et il n'y a pas de raison.
Très bien,
que...
ouais,
mais... Il y a une information que je n'ai pas donnée.
Moi, je leur ferais jouer volontiers ce jeu, je pense.
Ah ouais, cool.
Je kiffe. Le concept est excellent parce que, avant d'ouvrir la porte, je pense qu'il y a vraiment matière à créer un beau Maelstrom.
Ah.
Là, on l'a vu un petit peu à la vidéo.
Moi, je pense que ça aurait fait un bon freeform.
Oui, voilà, exactement, c'est ça. Ouais. Là, voilà,
un bon GN.
Un bon GN, ouais. C'est-à-dire qu'en fait. Bon, moi, ce que je vais contester, comme je disais au départ, avant le générique, c'est... Alors d'abord, prévenir les auditeurs qu'il y a une vidéo, en fait, la vignette de ce podcast, c'est la vidéo qu'on a faite en allant jouer là-bas. C'est important parce que les postures des joueurs sont intéressantes. Je trouve chaque posture, on va en parler.
Ouais, j'ai senti que je ne me tenais pas droit, moi, par exemple.
Non, mais
j'étais pas bien.
Moi, par exemple, je reconnais volontiers que j'ai bel et bien pris la caméra pour ne pas participer à ça. Et j'expliquerai
pourquoi. C'est la première fois qu'on enregistre toute la partie
du jeu de rôle, effectivement. Ouais, c'est la première fois qu'on fait ça.
Par contre, tu allais dire un truc, c'est qu'il y a un truc dans la feuille que tu ne nous as pas
dit. Oui, il y a un élément quand même de la feuille que je n'ai pas donné. C'est que... et qui est quand même le travail que Ben Lehman, semble-t-il, a le plus apporté au jeu, c'est qu'il y a plein de petits symboles disposés comme des... Je sais pas trop, comme des...
On les voit à la vidéo. Au tout départ, j'ai filmé pour partir, en fait... avant de partir là-haut, j'ai filmé, en fait, la feuille du jeu. Et donc, du coup... mais on les voit très, très peu, mais on voit un petit peu qu'il y a effectivement des symboles comme des espèces de chromosomes qui sont affichés sur la feuille.
Et je pense qu'ils font quand même partie vraiment du jeu.
Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser la règle du jeu...
T'as des consignes, toi, pour ce que tu dois mettre dans la pièce ou pas ?
Oui, alors effectivement, la règle du jeu aurait dû être dans la pièce, je pense.
Ouais, d'accord, ok. C'est un potentiel énorme, ce jeu. Moi, j'ai plein de choses
à faire. Eh ben vas-y, fonce.
Si, Manu,
si tu laisses la fiche de jeu de rôle dans la pièce, tu crées... Enfin, moi, je pense que tu vas forcément avoir des réflexions méta.
Oui,
alors, qu'est-ce que t'appelles des réflexions méta ? Vas-y, développe.
Bah, le type, en fait, toi, on te dit, bon, on va jouer à GJ237B. Et quand tu rentres dans la pièce, tu vois qu'en fait ils étaient joués à un jeu où il y a écrit GJ237B dessus.
Non, par contre, tu peux juste faire une photocopie des chromosomes.
Ah, peut-être, ouais, au moins les symboles.
Ouais. Et là, du coup, créer une espèce d'escape game après.
Non, je pense que le jeu il va se jouer surtout sur l'ouverture et l'exploration intérieure. Et...
Ok, Nico. Moi je vous reste d'abord, vas-y, avant de passer la parole à Manu, si ça ne dérange pas, donner la parole à Maxime parce que je sais qu'il va devoir partir. Donc, Maxime, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu ? Donne-nous toutes tes impressions comme ça.
Ça a été sympa parce que les discussions avant étaient rigolotes et rentrer dedans c'était rigolo. Mais il y a même si c'est pas ce qu'ils ont voulu faire, moi ça m'inspire pour en faire vraiment un GN qui irait loin dans les réflexions. Mmh. Tu vois, dans le
tu
avant.
Le vois comme un jeu qui est inabouti finalement.
Je pense que dans leur tête, dans les têtes des auteurs, il était tout à fait abouti et c'est peut-être exactement ce qu'ils veulent et pas plus, quoi, ce que j'ai ressenti.
Aussi, ouais.
Du coup, voilà. Juste, moi, je le trouve inspirant. Je jugerai pas le jeu, je juge l'expérience que j'en ai faite. Mmh. Je le trouve inspirant et je pense que les petites discussions qu'on a eues avant, sur lesquelles j'ai un peu rigolé en méta pour décompresser, c'est rigolo, mais je sais déjà que je fais ça de manière générale. Mmh. Je pense qu'il y a moyen d'en faire une expérience...
intérieur.
En tout cas, je pense qu'il faudrait très peu de travail pour en faire quelque chose qui peut être vraiment un GN, tu vois, genre les discussions qu'on a commencé à faire, on pourrait la murer la porte.
Moi, je suis vraiment fan du jeu.
Moi, c'est le genre de jeu que j'aimerais bien proposer à un nombre extrêmement grand de personnes, genre dans une convention. Tu vois, tu dis, au fait, dans cette convention, il y a un fil rouge, c'est que cette porte là-bas, elle est fermée, n'importe qui peut l'ouvrir à tout moment.
J'ai déjà tellement d'idées, putain, pour un jeu de ce type.
Donc,
Emmanuel.
Voilà, pour finir.
Je suis en train de lire la feuille en fait et ça m'évoque plein de trucs.
Mais après, je suis jamais vraiment rentré dans un. Tu vois, si on utilise les vocabulaires de GN, je suis jamais vraiment rentré dans un cercle magique. J'étais tout le temps.
Qu'est-ce que c'est le cercle magique du coup
C'est l'espace. Enfin, on va dire l'espace-temps du jeu. Propre au jeu. Ah. C'est le moment où le personnage qui prend plus le pas, entre guillemets. C'est le moment où tu rentres dans la fiction et où quand tu regardes ton voisin, tu regardes plus Fabien, même si tu sais que c'est lui. Tu vas agir de manière prédominante.
C'est une espèce de suspension d'incrédulité pour du GN. Quoi.
C'est ça. Et je pense qu'en jeu de rôle, il y a une forme un peu comme ça aussi.
D'accord.
Mais je sais pas si ça a pas été déjà développé. J'ai pas assez lu la théorie de ce côté-là. Mais j'ai senti qu'il s'est jamais vraiment fait. C'était sympa devant la porte, mais il y avait une espèce de sentiment de ah, je suis au bord du gouffre émotionnel dans lequel j'aime bien me jeter. Et en fait, je peux pas me jeter dedans.
Mais j'y vais pas.
Mais non, c'est pas que j'y vais pas, c'est que j'ai pas les moyens de m'y jeter.
D'accord. Okay.
Le jeu me donne pas les moyens de m'y jeter.
Bon, il dure même pas une seconde le jeu, tu vois.
Enfin, je suis d'accord. Mais en fait, pour moi, le jeu, il a duré toute la montée des escaliers, les discussions devant la porte,
même avant,
l'ouverture.
Au moment où le podcast a été fait, pour moi, le jeu avait déjà commencé.
Quand tu dis le jeu commence,
c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Hein. En ce qui me concerne, le jeu a commencé au moment où j'ai lu la feuille, il y a une semaine.
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
Donc voilà mon avis. Tant que je suis là, je peux intervenir de temps en temps, mais sinon, je vais vous laisser parler. Mon avis est du coup pas très intéressant parce que j'ai surtout été spectateur. J'ai pas tenu la caméra, j'ai pas ouvert la porte.
T'as pas trouvé que le réel, par exemple, avait un rôle très spécifique dans ce jeu? Par exemple, que le réel, le fait que Manu ait des affaires à l'intérieur, le fait que Fabien nous ait dit que de toute façon,
c'est en ça que je dis que c'est plus un freeform / GN qu'un JDR. Parce que ton environnement extérieur est important, alors que dans une partie de jeu de rôle, t'es quasiment purement dans le...
On revient à ce que je disais avant le jingle, quoi.
Ce que j'ai trouvé... Manu, je t'en prie.
Ouais, t'as fait mine de vouloir me piquer la place, non, c'est pas du tout l'ouverture, t'avais pas du tout envie de la faire.
Alors, il y avait une partie de moi, mais c'était le petit troll en moi, le troll qui n'est pas là quand je suis en vrai GN. Justement, je l'ai retenu parce que ça, c'est ce petit troll que j'ai dans la vraie vie. Enfin, pour ceux qui me connaissent, dans la vraie vie, je fais des blagues, je suis un peu zébulon des fois. Quand je joue en jeu de rôle et en GN, il disparaît complètement. Mm-hmm. Parce qu'en jeu de rôle et en GN, j'ai à cœur l'expérience des autres aussi. Et ça aurait été juste une action de troll, entre guillemets, d'ouvrir la porte à ta place.
Tu voulais que Manu puisse ressentir l'émotion.
Je voulais que Manu se rende bien compte de. Je voulais d'abord qu'elle se rende bien compte que mine de rien, j'étais mal à l'aise avec le fait que quelqu'un ouvre cette porte. Et je voulais l'embêter. Tu vois, moi, j'étais vraiment dans la. Moi, mon jeu, ça a été de l'embêter, genre de te faire te poser des questions philosophiques et éthiques sur ce que tu es en train de faire. Mmh,
très bien.
Je vais vous laisser du coup.
Ah, tu vas nous laisser, ça y est.
Bah okay. Oui, apparemment.
Et au revoir Max, merci d'avoir joué.
Au revoir Maxime.
Bah ouais, du coup j'ai hâte d'écouter ce podcast pour avoir vos retours.
Enfin, moi j'ai vraiment un monstre truc à dire. Hein. Je peux faire.
Bisous aux auditeurs et auditrices.
Ciao. Pour commencer, un truc qui m'a beaucoup intéressé dans ce jeu, c'est que le réel sert d'excuse à commettre une action qui, par la fiction, est présentée comme irréparable. Ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que à tout moment, en fait, pourquoi est-ce que finalement on ouvre la porte ? Parce que de toute façon, il y a une réalité qui nous rattrape, qui est que de toute façon, cette porte sera ouverte parce que c'est dans ma maison et qu'un jour ou l'autre, quelqu'un ouvrira la porte. Et donc, dans le fond, si on ouvre la porte, c'est parce qu'on sait que tôt ou tard, elle sera ouverte. Et donc, autant faire en sorte que ce soit quelqu'un qui joue à ce jeu, qui l'ouvre, j'ai l'impression.
Someone who cares. Quelqu'un donc, pour ça, qui c'est important.
Exactement. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qu'on peut interroger et qui me semble assez intéressant. J'y vois aussi une espèce de critique du pragmatisme. C'est-à-dire, en fait, le pragmatisme, ça nous fait souvent faire, tu sais, tous ces gens qui disent « De toute façon, dans la réalité, quelqu'un le prendra, ton emploi. Si tu acceptes les heures supplémentaires non payées, de toute façon, si tu ne l'acceptes pas, il y a un autre chômeur qui viendra et qui le prendra. »
Un débat moral, c'est ça, c'est
exactement.
Les trucs. Parce que la réponse kantienne, il me semble, c'est de pouvoir dire « Oui, mais au moins, ça peut ne pas être toi qui fait l'acte. »
Ouais, mais tu vois,
il y a toujours
une justification comme ça. On se sert souvent de la réalité comme une justification. toute façon, c'est le cas. Ah, regarde, oui, écoute les économistes dire, mais c'est la réalité, donc vous devez, tu vois, essayer de. On essaye d'imposer comme ça pour commettre des actions qui sont préjudiciables.
Et puis, ça renforce aussi tous les discours qu'on peut avoir contre le boycott, qui d'ailleurs, l'appel au boycott maintenant est interdit. Mais Emmanuel, à quoi ça sert que j'achète pas des biscuits lus, par exemple, puisque de toute façon, les autres achètent. Mmh. Et inversement, à quoi ça sert que je m'emmerde à marcher une demi-heure au lieu de prendre ma voiture, puisque de toute façon, les autres polluent. Mmh. Donc voilà, je pense
c'est,
que...
C'est ce genre de détails. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'ils annoncent le jeu comme un jeu de rôle pour zéro joueur. Ce n'est pas le cas. Les joueurs, alors, c'est nous. Et ce ne sont pas les mécanismes, les organismes unicellulaires.
En même temps, c'est essentiel qu'ils disent que le jeu est à zéro joueur. À la fois, bon, évidemment, parce qu'il y a une dimension, comment dire, pour attirer, hein, de transgression, et puis parce que ça permet de, comment dire, de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un joueur, qu'est-ce que c'est que la fiction. Tu vois, donc ils ont évidemment qu'il n'est pas à zéro joueur, évidemment qu'il y a des gens qui performent le truc. Mais
je vais en reparler. D'accord. Ça, j'ai vraiment envie d'en reparler. Manu, tu...
Alors ouais, j'ai la feuille sous les yeux. Je pense que quand on écrit un jeu de rôle qui fait trois petites pages à cinq, puisque la quatrième, c'est les remerciements, je pense qu'on pèse les mots. Donc je pense que là, pour le coup, ça vaut le coup de se pencher dessus. Et le dernier paragraphe, c'est ending play, donc comment le jeu se termine. Et ça dit très exactement, donc when someone opens the door, they are the human explorers. Donc quand quelqu'un ouvre la porte, ils sont les explorateurs humains qui sont arrivés sur GJ. Donc concrètement, il y a une contradiction là, parce que l'auteur dit clairement lui-même qu'au moment où on ouvre la porte, on est dans les personnages, on est ces explorateurs humains.
Le vrai jeu, la vraie partie, c'est celle des organismes unicellulaires.
Pour moi, il y a deux jeux.
Ils disent bien « This game is about the societies and cultures that once existed on GJ 237B ».
Ouais, mais donc, pour moi, il y a deux jeux. Il y a, parce qu'effectivement, c'est pareil. Quand il dit « playing the game », il dit donc il y a un jeu qui est joué dans la pièce. Et in that room, donc the game that is being played in that room is not something that you can play.
Ouais, tu vois.
Mais ça veut dire qu'il y a un jeu auquel nous on ne peut pas jouer, mais il y a quand même le jeu que nous jouons, puisqu'on explorateurs humains.
Je pense qu'on se heurte un peu sur l'utilisation des mots et du.
Exactement, et puis aussi un peu sur le paradoxe du menteur, tu vois. Il y a un côté paradoxe du menteur dans ce.
Parce que je pourrais aussi interpréter ce que tu dis en disant non, nous on n'est pas, c'est pas nous qui jouons au jeu, c'est nous qui l'interrompons.
Le faisons s'achever à tout le moins. Oui, mais ce que veut dire Emmanuel, qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux jeux. Il y a le jeu de ceux qui viennent interrompre, donc le jeu d'explorateur humain, qui survient peut-être ou qui émerge peut-être sur cette règle. Mm-hmm. Hein, le vide, c'est peut-être aussi un. Bon. Et il y a le jeu qui est pratiqué par les organismes qu'on va détruire. Je trouve ça très bizarre de les avoir appelés des organismes unicellulaires. C'est très étrange parce que ça pose sur eux déjà des connaissances humaines. Or, si on est vraiment les explorateurs qui viennent les découvrir, on ne sait rien d'eux. Moi, je pense que Ben Lehman et Kathleen Bell auraient dû ne rien dire de ces organismes. Dire il y a une civilisation développée, machin truc, blablabla, et point. Pas plus de.
C'est parce qu'on
fait
quand même qu'il y a des artefacts derrière.
Oui, mais bon, justement, des artefacts, c'est cool. Pourquoi dire qu'ils sont unicellulaires ?
Oui, parce que ça s'inscrit quand même dans une certaine forme de science-fiction. Donc, si tu veux, ouais. Ça peut pas être des sétentras, si c'est ça que. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que ta réflexion me fait dire. Les sétentras, il faudra déjà arriver à expliquer ce que c'est, tu vois.
Ouais, d'accord.
Alors, ontologiquement, ouais. Bon.
Manuel.
C'est peut-être aussi assez simplement une critique de nos gros sabots qui fait que dès qu'on considère une civilisation inférieure, on a moins de scrupules à la détruire.
Ah. Alors
ça.
Intéressant ça.
Ça c'est ça. Ah oui, pas... C'est-à-dire non, moi je crois pas.
On pourrait pas l'observer à distance. Si c'était ne serait-ce que des souris, on pourrait les observer par satellite, tu vois. Aujourd'hui, tu peux observer des choses très
en haute atmosphère. Okay, d'accord, ok. Là, je vois mieux. C'est-à-dire que du coup, le jeu parlerait plus de la pollution par l'homme des astres sur lesquels il se pose.
C'est ça.
La pollution spatiale.
Bah, c'est vrai que moi, la première chose à laquelle ça m'a fait penser,
évidemment,
c'est aussi, vu que ça parle quand même de bactéries ramenées par un chat, c'est par exemple les civilisations amérindiennes,
ouais.
Auxquelles on a refilé le typhus allègrement. Il y a quelque chose aussi, moi, par rapport à ça, les parallèles qu'on peut faire. La petite frise de petits symboles que tu as comparé à des chromosomes, donc c'est vrai que ça pourrait être des petites chaînes d'ADN. Et en fait, quand on regarde les symboles, je pourrais te les passer, Rome, si tu veux, c'est des symboles qui sont extrêmement humains et sociétalement très avancés, entre guillemets, puisqu'il y a des choses qui ressemblent à des balances, il y a quelque chose qui rappelle un terrain de tennis ou un terrain de foot, il y a des choses qui rappellent des maisons, tout simplement. Donc, c'est quelque chose de très, très société avancée. Est-ce que c'est aussi une façon à l'inverse de culpabiliser plus celui qui a lu le jeu, puisque lui il sait que cette société elle est très semblable à la nôtre? Est-ce que c'est... Ouais, je pense encore une fois que c'est pas anodin hein, quand on a juste ce petit détail là, c'est la seule chose qui est dessinée.
Attends, c'est Caroline Lehmann?
Non, ça c'est les
gens qui ont aidé.
C'est d'accord. les gens, les Patreons.
D'accord, ok.
Et tu remarqueras qu'il y a Christophe Buckley dedans.
D'accord, ouais. Il y a Fabien Hidvine aussi. Hein.
Ben oui.
Je viens de le voir. Ok, d'accord, ouais. C'est super intéressant. Alors, l'autre point essentiel auquel, personnellement, moi, ça m'a fait vraiment penser, c'est là, récemment, je sors d'une lecture d'un livre incroyable, qui est celui d'Ernesto De Martino, Le Monde Magique, dans lequel Ernesto nous propose de décentrer notre point de vue pour aborder celui de tribus dont les croyances en la magie sont fermement implantées culturellement, dans l'histoire culturelle, c'est ainsi qu'il l'appelle. Moi, ce jeu, il m'a fait penser à ce livre parce que qu'est-ce qui garantit l'existence d'une chose ? Dans une société, dans une société occidentale et rationaliste, on a cette idée que notre âme, notre existence est garantie. Elle a été garantie par la religion catholique, elle a été garantie par Platon, elle a été garantie par Descartes, qui a montré que je suis, j'existe, et cela est l'essentiel, je pense donc je suis, etc. Je vous refais pas l'histoire de toute la philosophie. Elle est aussi garantie par un auteur comme Wittgenstein, qui montre qu'il existe deux divinités, le jeu métaphysique et le monde qui lui est montré.
La neurobiologie peut-être aussi, qui est la quête d'une existence matérielle de la conscience.
Et donc, on peut voir toute cette entreprise occidentale comme en fait l'élaboration d'un gigantesque sort magique pour garantir en fait l'existence des Occidentaux. Et retourner en fait le problème de la magie en se disant en fait les mages les plus puissants aujourd'hui ce sont les Occidentaux parce qu'ils ont réussi à l'aide de sortilèges puissants, d'intellectuels, de livres, à implanter cette idée que en fait nous sommes notre existence en tout cas est garantie. Et quand je lis le jeu de Ben Lehmann qui parle également effectivement de la colonisation, etc., je ne peux m'empêcher de penser à justement la vision du scientifique occidental qui arrive sur des terres inconnues avec des gens qui ont une vision de l'existence même qui est différente de la leur et qui les écrase parce qu'ils pensent que leur existence à elle est garantie alors que celle des autres finalement ne l'est pas. Dans les tribus concernées par le magisme, c'est ainsi que les appelle Ernesto, les personnes qui se présentent en rêve sont aussi existantes, comme ils n'ont pas de garantie de leur propre existence en tant qu'être vivant, ils pensent que les représentations qui se déroulent et qui se déploient dans les rêves sont tout aussi vivantes. Ça veut dire concrètement que dans ce jeu, pour vous en donner un exemple, rien ne nous permet d'affirmer que ces organismes, on ne vient pas vraiment de les massacrer. Qu'on ne leur a pas donné vraiment naissance en lisant ce sortilège, ce palimpseste, ce jeu que je tiens entre les mains, et qu'on les a nous-mêmes éradiqués en ouvrant bel et bien la porte. La seule chose qui nous permettrait de l'affirmer, c'est notre conception de l'existence, au sens où, selon nous, il n'y a que les êtres vivants, tangibles, que notre âme à nous est garantie, mais rien ne nous dit qu'on n'a pas bel et bien massacré quelque chose. Et donc ce jeu, il interroge aussi cette position rationaliste et radicale, cette conception radicale de l'existence et de la position de l'âme. Ah, tu voulais intervenir, Fabien ? Excuse-moi, je continue
Non, non, mais vas-y. Vas-y. Je suis tellement d'accord. En fait, Fabien. Je veux apporter, pas de l'eau, mais un fleuve à ton moulin, pour dire exactement la même chose que ce que tu dis, mais d'un point de vue de sciences sociales. Et peut-être que Manu, ça va te parler.
C'est dommage que Maxime soit parti, parce que du coup,
oui, évidemment,
je pense que... Évidemment,
mais je te dis pas du tout ça pour te troller, hein. C'est que si tu veux, qu'est-ce qu'on étudie en sciences sociales ? Regardez la vidéo. regardez comment simplement le fait de s'être mis d'accord sur cette fiction, c'est-à-dire dire à l'intérieur de cette salle, il y a une civilisation, ça modifie nos corps, ça modifie nos positions, ça modifie nos comportements.
C'est ça.
Tu vois, la fiction, quand on dit par exemple la démocratie est une fiction, c'est tout à fait vrai. Mais c'est pas parce que c'est une fiction que...
Il n'a pas d'impact sur le réel.
Voilà, enfin, sur la matière en tout cas.
Sur la matière.
Parce que, tu vois, c'est pas parce que c'est une fiction que c'est pas réel. Et en sciences humaines, ce qu'on étudie, c'est profondément, si tu veux, entre guillemets, des fictions qu'on se donne.
L'ontologie de la science humaine ne peut pas faire l'économie des fictions.
Oui, tout à fait.
Alors que l'ontologie du biologiste peut en faire l'économie, bien sûr.
Mais cela dit, la différence, c'est que les sciences humaines ne font jamais l'économie de la matérialité. Ou alors, c'est vraiment très rarement, et puis après, il y a rapidement quelqu'un qui dit « Ah oui, mais il ne faut pas oublier les corps, il ne faut pas oublier les intérêts matériels, il ne faut pas oublier les structures physiques, il ne faut pas... » Enfin bon. Donc, si tu veux, on est toujours obligé d'y revenir. D'accord. Mais voilà. Ce qu'on a vécu là tout à l'heure, toi t'appelles ça une forme de magisme si tu veux.
Bien sûr.
Moi j'appellerais ça une fiction, mais au sens le plus fort du terme. Et c'est exactement ce qui nous intéresse nous en sciences humaines.
Alors Manu, ça te fait réagir tout ça bien sûr. Oui et non en fait.
Alors déjà j'ai beaucoup de mal à mettre des choses concrète sur ce que dit Fabien en fait.
C'est un vocabulaire qui est très étranger.
Je pense que le vocabulaire m'est très étranger. Après, c'est vrai que ça... quelque part, une fiction qui, là en l'occurrence, elle n'est créée que pour être détruite, puisque c'est inscrit dans...
Tu crois que ton existence ne s'inscrit pas dans ce genre de plan?
J'ai du mal à coller de l'intentionnalité dans notre existence, alors que là, on est clairement dans l'intentionnalité.
Exactement,
en écrivant le jeu et en écrivant et surtout Fabien en installant là-haut. Donc quelque part, le pire des destructeurs dans l'histoire, c'est
absolument,
presque toi,
c'est Dieu,
puisque
ouais,
c'est toi qui as décidé de les créer.
Il y a même pire, il y a Ben Neiman et Kathleen Bell aussi qui sont encore au-dessus.
Oui, mais ils n'obligent personne à jouer au jeu.
C'est vrai.
J'ai perdu
alors
le jeu.
Encore.
J'ai gagné au jeu.
Déjà. Mais alors que toi, par contre, tu as choisi de nous le faire jouer.
Absolument,
donc tu aurais pu juste nous en faire prendre connaissance en disant je refuse de m'engager là-dedans.
Dans l'ombre de tout berceau, il y a un cercueil. Mais pour revenir à quelque chose d'à peine plus concret, regarde, tu disais j'ai du mal à comprendre de quoi je parle. Regarde ce qu'on a vécu tout à l'heure.
Emmanuel.
Souviens-toi comme ça nous a formé, on s'est mis à y croire entre nous, si tu veux.
Oui, mais sauf que Emmanuel n'a pas cette conception de l'existence.
Oui, mais justement, j'essaye de lui faire saisir la mienne, tu vois.
Oui, bien sûr. Ouais.
Ça certainement pas à remplacer la tienne, mais à te faire saisir comment je fonctionne comme ça. C'est-à-dire de considérer que les gens se mettent d'accord volontairement ou involontairement, ou même parfois c'est quelque chose qui leur est imposé dans l'enfance, sur des conventions, et que ces conventions modèlent nos vies.
Si je peux me faire l'avocat du diable, c'est juste que les gens croient en des mensonges, c'est vrai. Mais ce qui
enfin, pas des mensonges, des fictions, c'est pas tout à fait la même chose.
Ouais, ok, donc des mensonges auxquels ils ont choisi volontairement d'adhérer.
Non, pas forcément, c'est ni vrai ni faux.
D'accord.
La démocratie, c'est pas
bien
vrai.
Ce que j'en pense,
pas vrai ou c'est
encore une fois, je me fais l'avocat du diable.
Je sais bien. Mais tu vois, la démocratie, c'est ni vrai ni faux.
Je sais.
Et c'est pas quelque chose non plus auquel on a pu choisir d'adhérer.
J'ai eu l'occasion bien des fois de le dire que ce concept de vérité, de toute façon, posait énormément de problèmes. Bon, donc en fait, quand même, ce jeu-là, cette tragédie de GJ 237B, c'est un jeu qui interroge, à mon avis, l'existence du jeu de rôle. L'existence de la partie de jeu de rôle, l'existence des joueurs. Et donc, le mot déterminant là-dedans, c'est un jeu qui interroge l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire exister ? Qu'est-ce que ça veut dire exister ? Moi, j'en suis persuadé. C'est le propos du jeu, c'est la problématique que ce jeu nous impose. Emmanuel d'abord, puis Fabien.
D'autant, après, il y a un truc qui est un peu bizarre aussi, c'est que quand on crée une partie de jeu de rôle plus classique, on va dire, on peut dire que notre maelstrom, il vient aussi du fait qu'il y ait des éléments de description à un moment. Et là, pour le coup, il n'y a eu aucun élément de description.
Sauf le background.
Mais en soi, on n'a pas laissé à cette civilisation d'autres éléments d'existence que ça.
Là, je peux te répondre que, attention, dans le Maelstrom, on parle de proposition, d'accord ? Mais on parle aussi, mais ça c'est un add-on, un errata un peu que j'ai ajouté au cours des podcasts et au cours de mes conférences sur le sujet, on peut parler aussi de communication non-verbale,
oui.
De description, de monstration. À partir du moment où Fabien nous a mis dans la pièce des éléments, où il nous a mis en scène quelque chose, il y a une description.
Mais le jeu était déjà fini à ce moment-là. C'est-à-dire que là, on était plus dans le débrief, quelque part, quand on est rentré dans la pièce.
Attention, le jeu, la partie de jeu de rôle, c'est le Maelstrom, les propositions faites, les propositions validées et invalidées par les participants. C'est tout le mouvement, la partie de jeu de rôle. Donc, c'est pas parce que les propositions sont faites en amont que les réflexions à leur sujet n'ont pas toujours lieu. Par exemple, je cite un exemple, il y a un moment donné, Maxime a pris un dé. D'accord ? Il a pris un dé dans les mains.
Mmh.
Et on ne savait pas, je lui ai demandé sur quelle face était le dé quand il l'a pris.
Mmh.
Et personne ne le savait.
Moi je le savais, mais j'avais mis les choses en place.
Mais tu avais mis les choses en place, donc tu te souvenais du chiffre que tu avais mis.
Ouais.
Ok. Donc tu vois, bon, ça veut dire que lui, il avait fait une Ah oui, mais c'est une proposition de mettre un dé sur 2 au lieu de le mettre sur 5. Hein, c'est une proposition de tu vois, donc, il y avait des propositions. Il y a des propositions qui ont été faites par des joueurs. Est-ce que tu veux ouvrir la porte? Est-ce que tu veux pas l'ouvrir? Moi, je veux bien. Je vous propose de l'ouvrir. Est-ce que vous êtes d'accord? Tu vois, on t'aurait pas laissé ouvrir la porte si on n'avait pas été tacitement d'accord avec ta proposition d'ouvrir la porte. Le fait que tu approches la main de la porte pour l'ouvrir, c'est ok, tu ne l'as pas verbalisé, mais c'est une description.
Vous avez laissé largement le temps, d'ailleurs, avant de tourner le bouton.
Volontairement, parce que tu voulais l'approbation.
On peut revenir sur ce moment-là
Bien sûr.
J'ai trouvé intéressant aussi ce que tu disais sur les postures. Tu en parles un peu dans la vidéo, mais il faut expliciter ça.
Fabien.
Tu vois, sur toi qui dis « Ah, moi, je me mets derrière la caméra, comme ça, je n'ai pas de responsabilité. »
Je l'ai fait volontairement.
Parce que
le livre d'Ernesto De Martino m'a tellement... chamboulé la tête là-dessus, je me suis dit, écoutez, ce livre m'a mis le bénéfice du doute. Je dis pas que je suis complètement relativiste du point de vue métaphysique et de la réalité. Je dis que ce livre a réussi à mettre le doute. Et du coup, dans le doute, je préfère autant me cacher derrière une caméra en me disant, voilà, moi je ne suis pas vraiment là, je filme, je fais des blagues, je parle de mes jeux vidéo au lieu de parler de, etc.
T'as mis un moment à filmer la scène du massacre. Hein.
Ouais, c'était difficile.
Moi, je voulais pas ouvrir la porte parce que ça ne m'appartenait pas, puisque j'avais mis en place le truc. Je voulais que les autres en profitent un peu, l'espèce de posture de Dieu dont parlait Manu tout à l'heure.
Ouais.
Et puis il y avait Manu et il y avait Maxime. Maxime était très mal à l'aise quant à l'idée d'ouvrir la porte. Tu vois, preuve que la fiction peut avoir un impact direct sur le physique
avant,
et sur le matériel.
Ouais.
Et toi, Manu, tu avais une attitude un peu hédoniste, d'une certaine manière, en disant, ben, toute façon, cette porte va s'ouvrir, autant que la personne qui le fasse, ce soit moi, parce que je sais que je vais en profiter intérieurement au maximum. Finalement, tu as poussé l'expérience intérieure jusqu'au bout.
Emmanuel.
De toute façon, vos objections de « ah ben non, on pourrait très bien la laisser fermer », ne tenez pas la route. Là, vous étiez clairement dans de la fiction. On pourrait faire comme si on pouvait priver Romaric d'une pièce entière de sa maison, qui en plus est primordiale, puisque c'est une pièce qui nous accueille quand on vient.
Ouais.
Donc voilà, on savait très bien concrètement tout ce que même la laisser condamner jusqu'à la fin de la semaine, c'était pas envisageable. Donc quelque part, vous avez fui aussi en disant bah non, on peut pas. Non, on peut pas.
Imagine qu'on l'ait fait. Imagine qu'on l'ait fait, qu'on soit allé chercher des briques et du ciment, il y en a dans la remise là-bas, et puis on aurait commencé à faire notre petit ciment là-haut et à murer la porte. Toi, moi je renonce à mon paquet d'avoine, toi tu renonces à ta brosse à dents, et Romaric renonce il renonce pas exactement à une partie de sa maison. En fait, ça aurait transformé ce lieu en un endroit sacré.
Absolument, ouais.
C'est-à-dire, parce qu'on se serait mis d'accord sur le fait que, et je pense que c'est comme ça que tu crées un temple ou une religion. Et je rappelle que moi, j'ai été très longtemps athée. Maintenant, je suis à la fois athée et religieux. C'est un peu compliqué, mais je dis ça sans aucun mépris pour la religion, hein, vraiment. On aurait créé une religion, on aurait fermé le truc. Et un jour, dans 5, 10, 100 ans, quand quelqu'un aurait ouvert le truc, en sachant tout ça, peut-être même en ayant écouté le podcast, il l'aurait ouvert avec une émotion qui aurait été infiniment plus grande. La fiction qu'on aurait créée, tu vois, aurait été... Est-ce qu'au bout d'un moment, on aurait mis des trucs, après on aurait sans doute peint par-dessus pour que ce soit joli, et puis on serait mis à expliquer, on aurait transmis ça à nos enfants, on aurait... Tu vois, je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'il y a une... Je te dis pas que ça aurait été réel ou possible, mais je te montre juste c'était une vraie possibilité dans le réel que de décider de fermer cette porte et de créer une religion.
Justement, pour diminuer peut-être. Alors, soit ils veulent tous les deux, que la réalité ait un impact sur le choix final des joueurs. C'est-à-dire qu'en un sens, ce soit parce que les joueurs n'aient pas le choix d'ouvrir la porte qu'ils doivent l'ouvrir à un moment, parce que justement, il y a la brosse à dents, il y a l'avoine, il y a le réel, qui résiste et qui vient nous obliger à ouvrir. Ou alors, ils auraient pu faire en sorte que la préparation du MJ se trouve dans une boîte en bois.
Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'à la limite, on aurait pu aussi envisager que ça se fasse juste dans une boîte. Et exactement. Cette boîte-là, à ce moment-là, on aurait pu envisager de la sceller, l'enterrer dans le jardin.
Comme une capsule temporelle.
Il y a d'ailleurs un artiste contemporain qui a fait ça. Il a chié dans des boîtes. Alors, il dit avoir chié dans des boîtes de conserve. Il a fermé les conserves et il a exposé les conserves.
Merde d'artiste.
Ouais, voilà. Les conserves valent peut-être une fortune ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas combien vaut cette œuvre. En tout cas, on en parle beaucoup. Donc, je pense qu'à mon avis, elle doit avoir une certaine valeur. Personne n'a envie d'ouvrir la boîte. Personne n'a envie de savoir si c'est bel et bien sa merde qu'il a mis ou alors autre chose. Qu'il a menti ou pas.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est sorti à peu près en même temps que l'urinoir de Duchamp dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que justement, ça interroge ce que c'est que l'art et ça interroge aussi ce que c'est que la fiction qu'on se donne pour... pour de l'art et de la beauté. Je pense que quand on parle de la mort de l'art, c'est ce genre de choses. C'est la mort de l'art au sens traditionnel du terme. Et puisque je parle d'art,
si je puis
me permettre, pour revenir au jeu, pour revenir à la tragédie de GJ 237B, ce que ce jeu nous dit et pourquoi c'est important de dire et d'affirmer à tout crin que ce jeu est du jeu de rôle, c'est qu'il y a un lien entre le jeu de rôle et la performance artistique. Chose que beaucoup de gens disent, mais en même temps, beaucoup de gens diront c'est pas du... Les mêmes personnes pourront dire à la fois il y a un lien entre la performance artistique et le jeu de rôle, et beaucoup de gens pourront dire ça c'est pas un jeu de rôle.
Non, c'est de la merde en boîte, c'est pas ça. Une œuvre d'art.
Ouais, mais justement, tu vois, il y a une espèce de... Parce qu'évidemment, la différence entre la réalité fictionnelle et la réalité matérielle, c'est que c'est beaucoup plus... C'est relativement plus facile, mais en réalité pas tant que ça, de se mettre d'accord sur la réalité matérielle. Alors que la réalité fictionnelle, justement, il faut tout le temps en débattre et elle se crée justement parce qu'on en débat. Donc elle est fuyante en permanence. Mmh. Mais ce qu'on a fait là-haut, moi je dirais que pour moi, c'est de la performance artistique, tu vois. Ouais. On a vécu un truc, on l'a même documenté, tu l'as filmé, ce qui est un truc qu'on fait souvent effectivement quand on fait des performances artistiques. Ouais. Et tu vois, on a, comment dire, ouais, c'est ça, on a, pendant un moment, ce lieu là-haut a été un lieu sacré, au sens poético, à la fois poétique et religieux, les deux à la fois. Et ça, je trouve que c'est une force du jeu de rôle, de ce jeu de rôle qui est... C'est pour ça qu'il faut y jouer à ce jeu. À nouveau, je pense que c'est difficile de parler de ce jeu sans en avoir fait vraiment l'expérience.
Ah oui, je suis d'accord avec
toi. Sans l'avoir pris en main et avoir engagé son corps, s'être engagé émotionnellement pour le faire advenir.
Alors pour le coup, vraiment, pendant tout le week-end où Fabien était là, j'ai pas arrêté de dire « Mais c'est quoi ce jeu ?» Et tu me dis « Tu verras, je te dis rien. »
Fais-moi confiance.
Franchement, je me disais « Ah, il monte en épingle, ça va être décevant à la fin. » Et puis... Et puis en fait, non quoi, là je suis vraiment pas déçu, je trouve ça vraiment génial. Mais vraiment, j'ai envie de faire... en fait, je me dis, merde, je suis un peu jaloux de Ben Lehman, je me dis, putain, j'aurais voulu écrire ce jeu. Ce jeu est formidable. Mais encore une fois, Ben Lehman, il assure sa suprématie dans mon esprit. J'ai envie de dire, Frédéric, c'est un
ben
peu...
Ben Lehman et Kathleen Bell.
Et
je pense que, d'après ce qu'elle a l'air de dire, autant participé, voire plus.
Ouais, vraiment, je m'en veux en plus d'avoir oublié Kathleen Bell. C'est juste que j'ai du mal à retenir son nom aussi, mais... Enfin, Ouais, c'est formidable. Là, vraiment, on a affaire à un jeu formidable. Alors, après, on va dire, oh oui, le narrativiste, il branle du manche, Romaric, il branle du manche. Non, je trouve que c'est un jeu qui est intéressant. Il interroge les limites de notre média, il interroge des conceptions sur l'existence, sur ce qu'on fait quand on est un colonisateur, sur la vision que les Occidentaux ont imposée au reste du monde, la réalité, sur la façon dont l'Église catholique a imposé au reste du monde le fait d'avoir une âme.
D'avoir une âme, d'accord.
Ça,
okay.
Ça oui, parle de une tout forme, ça, ce jeu.
Okay. Qu'est-ce que c'est que la réalité, oui.
C'est une forme d'aiguillot taillé en pointe de toutes ces critiques-là. C'est aussi une expression, à mon avis, post-moderne de la culpabilité intériorisée de l'homme occidental qui massacre à tout va.
Sur la post-modernité, moi, je dirais aussi le dépassement entre la fiction et la réalité. Quoi.
Bien sûr. Mais tu vois, c'est inhérent au jeu de rôle, en réalité. C'est une goutte de Dieu, ce truc. C'est un jeu de rôle extrêmement puissant. En 4 pages, mon Dieu, il brûle dans mes doigts. Bon, là, je prends peut-être du manche, je crois que j'avoue.
Et tu vois, je trouve
c'est
ça.
Génial, ce jeu. C'est formidable.
Un jeu qui permet de créer un lieu sacré, il n'y a pas dans. Tu vois alors, tiens.
Ah, si, il y en a.
On va revenir à Manu sur le. Ah oui, non, mais il y en a
d'autres.
Il y en a, on est d'accord.
Il y en a plein d'autres.
Notamment Polaris de Ben Lehman, ou avec la bougie au milieu. Mais toi, regarde, toi qui fais du slam et qui est poétesse. Quand tu montes sur scène, tu vois bien que la scène a quelque chose de sacré.
Alors ça c'est intéressant parce que parmi les grands débats, voilà, c'est intéressant aussi. Mais parmi les grands débats qu'on a, c'est donner une définition au slam. Et en fait, quand on enlève le côté compétition, les histoires de style, de musique, de pas de musique, etc., on s'arrête généralement à une définition qui est que c'est un espace de liberté d'expression. Alors c'est un espace qui est plus ou moins matérialisé, hein, parce que il peut être très large, ça peut être une scène très concrète, ça peut être ça peut être un événement, etc. Mais du coup, ça devient du slam à partir du moment où il y a effectivement cet espace. Donc là, c'est aussi là-dedans effectivement qu'on se retrouve, c'est-à-dire que la création artistique, elle a besoin de ce lieu pour être mise en place, quoi. Donc on en est effectivement
donc c'est toute la pièce finalement qui est sacrée, le fait de prendre la parole en public,
mais
de se trouver un contre un public, ouais.
C'est ça, et que ça soit partagé aussi, et à ce propos je pense que tu l'as rendu encore plus slamesque d'une certaine façon par la vidéo, mais quelque part la vidéo me gêne un peu aussi. Parce que
tu veux pas qu'elle soit diffusée.
Ah, si, bien d'accord. Sûr, c'est absolument pas par rapport à ça. Mais c'est que je crois que c'est quand même la première fois que je me retrouve à jouer avec. Je sais pas combien de gens vont cliquer sur la vidéo, mais autant ça aurait été une partie de jeu de rôle filmée classiquement qu'un problème. Autant je savais pertinemment qu'en posant la main sur le bouton, j'allais aussi avoir les réactions de « oui, il faut l'ouvrir, non, il ne faut pas l'ouvrir », des gens qui regardent. Et quelque part, ça les fait rentrer dans le jeu directement, quoi. Et pour le coup, j'ai l'impression d'avoir créé du maelstrom avec les gens qui regarderont la vidéo, chose qu'on ne fait pas d'habitude quand on a une vidéo.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Et là, pour le coup, je trouve ça assez fun. Et en même temps, on dit toujours que l'observation modifie l'expérience. C'est aussi une des choses évidentes du jeu, puisqu'au moment où on ouvre, on modifie l'expérience qu'à l'intérieur.
Ouais.
Mais là, pour le coup, t'as créé une mise en abîme en rajoutant une caméra qui modifie aussi probablement nos comportements.
Oui, moi, je me suis mis à parler de façon plus...
Plus professorale.
Ouais, bien sûr. Mais ça, toujours, quand j'ai un public.
Ouais. Très bien.
La question de la vidéo est très intéressante, Manu a raison, parce que je pense que ça renvoie aussi à tout un tas de questionnements artistiques autour du théâtre, tu vois. C'est-à-dire que... Alors, j'ai assisté à deux représentations de slam, hein, donc j'ai sans doute pas du tout ton expérience, mais dans le théâtre, ce qui est épatant, c'est que comme spectateur, tu participes à quelque chose qui se passe devant toi. Et à nouveau, je reviens à mon concept, qui est quelque chose de sacré. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand quelqu'un du public se lève et puis monte sur scène, c'est une sacrée transgression. Quand quelqu'un sur scène oublie son rôle... C'est affreux comme transgression. Quand il y a quelqu'un quand il y a un incident technique sur scène au théâtre, c'est affreux comme transgression. C'est pour ça que moi j'ai fait un peu de théâtre, mais j'ai arrêté parce que c'était la peur, était l'angoisse d'oublier mes lignes était immense, quoi. Et par rapport à la vidéo peut donner l'impression de participer au théâtre ou de participer ici à la partie de jeu de rôle ou au slam ou tu vois l'enregistrement, mais en réalité ça ne peut pas être le cas parce qu'il y a un engagement du corps. On revient à la question du GN, c'est pour ça que Maxime, je pense, aura sans doute aussi des choses à dire. Un engagement du. En tout cas, moi, le GN me fait vraiment cet effet-là. Hein. Mes expériences de GN.
Juste un point pour dire, c'est surtout qu'il y a un engagement de. Pas uniquement du corps. C'est-à-dire que la personne qui joue peut faire des propositions. Ça change tout. Ah, quand tu es devant une vidéo, tu peux pas faire des propositions.
Oui, mais regarde au théâtre, par exemple, au théâtre, tu peux pas faire de propositions sur scène. Ok, enfin, à l'extrême, tu peux empêcher le truc de se passer. Tu te lèves, tu vas courir dans tous les sens et tu prends un extincteur, tu bastonnes les acteurs sur scène. Enfin, ok, mais à côté de ça, si tu joues le jeu, t'as quand même un engagement personnel qui fait que tu peux pas. Enfin, tout ce que tu peux faire avec ton corps, c'est te barrer, tu vois. Ce qui m'est déjà arrivé. Il y a déjà des pièces de théâtre où je suis sorti parce que justement, cet engagement était trop fort. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de. Tu vois, le théâtre, la différence entre le cinéma, il y a quand même une rupture qui est. Je dis ça, mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui parlent du cinéma aussi comme d'une expérience sacrée, comme d'une performance, parce que il faut être assis, il faut être dans le noir, il faut être engagé face à un écran qui est pas encore la même chose que ce que tu fais quand t'es.
Il ne s'agit pas de l'écran du maître de jeu, bien entendu.
Il s'agit pas de
comme vous en avez l'habitude.
Ouais, dont on a l'habitude, bien sûr.
Référence à la vidéo donc Fabien a fait où il présente son loisir préféré. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller sur YouTube pour. Tu spoiles pas la vidéo, toi ?
Ah, tu trouves que c'est une manière de spoiler la vidéo ?
Si tu dis de quoi ça parle, tu présentes ton loisir préféré. Sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Elle est sur la chaîne de Romaric Briand. Parce que j'ai pas de chaîne pour la cellule. Il y a pas assez de vidéos. Je sais pas. Peut-être qu'un jour il faudra d'ailleurs que je réfléchisse à ça. Emmanuel, tu avais d'autres choses à ajouter sur le jeu ? Tu as pris pas mal de notes, apparemment.
Ouais. Bah, c'est beaucoup des choses qu'on a
déjà
dites, qu'on a balayées. Après, c'est vrai que le fait aussi. Je me posais un peu la question de quel effet ça ferait d'y jouer tout seul, justement, puisque si c'est pour zéro joueur, on pourrait dire que c'est juste pour une seule
Fabien,
personne.
Fabien, il y a déjà joué tout testé. Seul.
Bah, ouais, c'est pas que j'ai joué tout seul, mais quand je l'ai lu, si tu veux, je disais tout à l'heure que pour moi, l'expérience, elle a commencé au moment où j'ai eu le truc.
Ouais, ouais.
Je te jure que ça fait une semaine que je me dis, ah, il faut que je le présente. Ah, c'est génial, c'est arrivé là, je vais pouvoir le présenter
Mais en même temps, je vais leur faire ouvrir la porte.
Je vais leur faire ouvrir la porte et je sais déjà, j'avais le plan de la barreau en tête. Je me dis, ah, est-ce que je le fais plutôt dans le bureau ésotérique, plutôt à tel endroit, c'est trop génial. Et donc, si tu veux, et moi, une autre expérience en fait que j'aurai, et maintenant que je pense je porterai toute ma vie, et que on pourra tous porter toute notre vie, c'est essayer d'imaginer ce que c'était que ces civilisations sur JJ 237B, tu vois. Mmh. Imaginer une civilisation inimaginable, un art inimaginable.
Tu sais qu'une des réponses de Pierre Lagrange au paradoxe de Fermi, c'est celle de.
Ah oui, j'avais vu ça dans son bouquin sur les ovnis.
Vachement intéressante, où il dit en gros, si ça se trouve, tu connais le paradoxe de Fermi.
C'est de dire que vu le nombre d'étoiles, il y en a forcément au moins une qui a permis la vie sur une de ces planètes.
C'est ça, la vie s'y est développée, et que donc ces gens doivent avoir le moyen aujourd'hui de pouvoir visiter toutes les autres planètes entourant les étoiles. Et donc la question de Fermi, c'est pourquoi ne sont-ils pas aujourd'hui déjà présent. Et donc la réponse de Pierre Lagrange, en tout cas dans son livre donc Les ovnis, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est de dire que finalement ils sont déjà là, mais on est leur culture, leur mode de vie, etc. est tellement bizarre que étaient là, voilà.
C'est pas exactement ce qu'ils
sont déjà là.
Ce qu'il dit, c'est que le problème c'est que la façon dont le débat ovni est structuré fait que on est obnubilé par une forme d'extraterrestre,
c'est
qui
ça.
Est le petit homme vert qui vient dans un vaisseau sur Terre.
C'est ça.
Alors qu'en réalité, il pourrait exister une infinité d'autres formes de vie intelligente.
Tu vois, c'est les arbres, c'est un peu ça.
Oui,
ils ont été amenés par des comètes, ce sont des extraterrestres, on vit à côté d'eux, donc voilà, paradoxe de Fermi résolu.
Ouais. C'est marrant parce qu'un des récents articles Paris là, sur Futura Science ou je sais pas quoi, c'était de dire que de toute manière, on a fait un calcul statistique et sur notre galaxie, à peu près 50% des molécules qui constituent notre galaxie sont issues d'autres galaxies.
Donc,
si ça se trouve, il y a déjà eu des explosions et on est des petits bouts d'extraterrestres en plus d'être des petits bouts d'autres galaxies.
D'accord, ok. Donc, tu vois, voilà. Mais c'était juste pour pour parler de ça aussi, puisque tu parles d'une civilisation, ça se trouve, on peut se poser la question même aujourd'hui, tu vois, de ça, savoir ça, est-ce qu'on coexiste pas déjà avec
une... Je fais de la promo de Romaric Briand, mais si vous voulez jouer à Sens Néant,
c'est la question que
c'est exactement la question que pose, c'est une des questions que pose Sens Néant aussi. Hein.
Exactement.
Ouais, après, le si ça se trouve me gêne un peu quand même, parce que... si ça se trouve,
non, mais
si
en
ça
fait,
se trouve, tout est possible.
Alors, ce qui est toujours intéressant avec le si ça se trouve, ce n'est pas ce qui se trouve derrière le si ça se trouve, mm-hmm. mais c'est le fait que nous-mêmes nous posions ces questions. C'est-à-dire que c'est exactement comme en ethnographie. On pense étudier un peuple et en fait on s'étudie soi-même. Enfin, ce qui est intéressant, c'est les questions qu'on se pose. Oui,
on étudie les deux à la fois.
J'exagère, mais voilà, c'est l'échange en fait entre les deux qui va faire. Mais oui, mais souvent, enfin, je veux dire, en tout cas, dans les livres d'ethno que j'ai lus, c'est souvent le
oui, il y a toujours un moment où tu reviens.
Final, c'est ça, quoi. C'est
où tu reviens réfléchir à toi-même, voilà, bien sûr.
Donc, voilà, le si ça se trouve, ce qui est intéressant, c'est dis-moi quel si ça se trouve tu te poses et je te dirai qui tu es. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se pose ces questions et etc.
Ouais, j'aime bien que les si ça se trouve quand même restent un peu sur le principe du rasoir d'Occam, quoi. C'est-à-dire.
Oui, mais tu aimes bien que tout soit de la biologie, mais tout n'en est pas. Voilà, on a le droit aussi de faire de la poésie, de voilà.
Oui, je fais de la poésie aussi.
Mais oui, la preuve. Mais oui, tu en es la preuve.
On est en train de t'inviter à réconcilier les deux.
Les deux. Ah mon Dieu, je vais arrêter d'être schizophrène. Oh
ouais, c'est tellement vrai.
C'est fou comme expérience quand même. Hein. C'est pas inintéressant comme jeu.
J'ai adoré vraiment. C'était trop bien.
Il est accessible. À l'heure actuelle, il doit être accessible sur le site de Ben Lehman, sans doute. Enfin, pas gratuit, mais pay what you want. Donc, là, tu sais, on dit toujours, enfin, sur le podcast, quand on parle d'innommable, par exemple, on dit, ah oui, c'est un jeu, il est très, très rapide à lire, très rapide à aller y jouer, il est gratuit. Alors, il est encore plus rapide et encore plus facile à jouer, quoi.
Ouais. Bah là, même, ils sont même pas forcés de le télécharger maintenant, ils peuvent même y jouer maintenant.
Oui,
tu vois. Mais je pense que ça vaut le coup quand même de rétribuer Ben Lehman et du coup, Kathleen Bell pour Kathleen, hein, c'est bien Kathleen.
Je sais pas, je prononcerai peut-être ça. Kathleen. Il nous faudrait Alice pour les accents.
Je trouve que ça vaut vraiment le coup d'aller s'inscrire sur son Patreon et de d'encourager ce genre de production. C'était vraiment une super expérience. Je sens que c'est ce genre de podcast où on va couper les micros et je vais encore trouver plein de choses à dire.
Ouais, et en fait, c'est un podcast. Tu vois, c'est ce que disait Maxime, c'est ça, quoi. C'est un jeu qui est tellement inspirant. Ouais. Qui nous montre qu'il y a un lien entre le jeu de rôle et performance artistique, et pour moi aussi religion, hein, je ne m'en cache plus.
Je trouve qu'il est
majeur et qui est à explorer.
Je trouve qu'il a trouvé cette astuce de la porte, cette espèce de boîte de Schrödinger finalement,
ouais,
l'application de la boîte de Schrödinger. Je trouve qu'il a trouvé là une astuce pour faire réaliser certains éléments de certaines problématiques existentielles, ou en tout cas les mettre au centre, qui m'intéressent beaucoup pour d'autres projets. Je pense que vraiment c'est un jeu dont je m'inspirerais, je pense.
Tiens, ah oui. Attends, j'ai une réflexion et après j'ai une question pour toi, Romaric.
Très bien.
Tu vois, par exemple, évidemment. Je vais dire un truc évident, je ne crois pas aux fantômes d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que je n'ai pas assez d'expérience ou de témoignages pour me dire les fantômes sont quelque chose qui existe physiquement. Mmh. Cependant, d'un point de vue à nouveau fictionnel, quand j'entre dans cette pièce, j'ai l'impression qu'il y a des fantômes sur ces chaises.
Ouais,
tu vois. Ouais. Et... parce que depuis que j'ai eu ces révélations sur les liens entre fiction et religion, je me dis souvent qu'est-ce que ça signifie. J'ai une personne dans mon entourage qui est en fin de vie, qui reproche beaucoup beaucoup de choses aux gens autour d'elle. Et cette personne ne ressemble plus du tout à la personne
que tu as connue,
que j'ai connue, qui était un mentor, qui était quelqu'un qui m'a formé intellectuellement, qui était un modèle, etc. Et parfois, tu vois, quand je pense à l'idée de fantôme, je pense un peu à ça, parce que je me dis finalement, il est
devenu l'ombre de lui-même.
Presque un spectre, tu vois, qui est presque dans la tombe, mais qui n'y est pas. Et qui d'une certaine manière, empoisonne les vivants, et en même temps, les vivants ne savent pas quoi faire pour l'aider, tu vois.
Spectre du Val.
C'est pour ça que les fictions sont importantes pour nous aider à comprendre le monde. Et de toute façon, quand on dit donner du sens au monde, c'est créer des fictions. Hein. Là,
l'enchanté.
Non, pas forcément l'enchanté. Les cadres de l'expérience d'Erwin Goffman, c'est juste comment tu expliques une situation, tu vois. Il y a quelqu'un qui entre dans cette pièce, qu'est-ce qu'il voit ? Est-ce qu'il voit des gens en train de se branler la nouille intellectuellement ? Est-ce qu'il voit des gens qui font un podcast ? Est-ce qu'il voit...
Bah toi, il ne te voit pas parce que tu as un pull jaune sur un canapé jaune.
Donc. Exactement, je suis comme vrai. Et la question que j'avais à poser à Romaric, c'est que...
Manu voulait d'abord réagir à ça, et puis tu laisses ta question de côté.
Ouais, je n'ai pas vu de fantômes en rentrant dans la pièce, mais dans la mesure
moi,
où
je les ai vus.
On peut...
Vraiment. Quand je touche ces tâches là sur la vidéo et tout ça, moi je les ai vues.
Le problème c'est que c'est pas le même voir en fait. Ouais. Vas-y Manu, pardon.
Je les ai sentis.
Saleté de mystique. Effectivement c'est pas tant les fantômes de ces êtres là. Par contre, c'est clair et net que le souvenir, que ce soit le souvenir de quelqu'un de disparu, le souvenir d'une histoire, cette espèce d'écho. Continue à donner une matérialité à quelque chose qui est parti, même si elle est relativement incomplète. Et c'est vrai que j'ai plus perçu dans cette pièce-là le souvenir, l'écho de l'histoire qui aurait pu être inventée, même si en même temps je l'apercevais quelque part à travers nos têtes à nous. C'est-à-dire le fait que nous, on ait imaginé l'histoire ou qu'on soit en train d'essayer d'imaginer l'histoire qui a été inventée et que du coup, ça lui donne quand même un écho et une matérialité à ce truc-là, quoi.
Je plus sois à 200% ce que tu viens de dire et que tu dis saleté de mystique, etc. Évidemment, quand on dit qu'on a senti les fantômes avec Fabien, justement, on ne se positionne pas d'un point de vue empirique. On ne dit pas qu'on les a sentis avec les sens. On dit bien, et donc on sait que ça n'appartient pas au réel qui résiste.
Je me doute, sinon je vous ferai interner directement.
Voilà, c'est ça, exactement. Et donc on parle de ce que. Ce qui est génial, c'est que tu viens de mettre les mots sur ma sensation exactement. C'est-à-dire que effectivement, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui avait disparu. Et là, tu viens de le dire. C'est ça, c'est la partie que ça aurait pu être. Effectivement.
Plus que les organismes, en fait.
Mais tu vois, le fait que le joueur imagine. La partie qui aurait pu être est en synesthésie avec le personnage qui découvre cette civilisation. Tu vois, il y a une forme de relation synesthésique qui fait que on est là vraiment. On sent physiquement en tant que joueur aussi la présence de la fiction. Quand je dis que j'ai senti les fantômes, soyons clairs, c'est comme quand je dis après une bonne partie de sens, putain, j'avais l'impression d'y être, quoi. J'ai vu. Il y a des moments dans des jeux de rôle, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, où j'étais tellement immergé dans la scène que j'avais presque l'illusion visuelle ou l'illusion auditive d'avoir vécu le truc vraiment. Et le presque qui est important, effectivement. Et là, j'avais presque la sensation qu'on découvrait bel et bien une civilisation et qu'il y avait des gens qui étaient assis sur ces chaises. Et c'est ça qui me dérange avec l'unicellulaire. C'est que l'unicellulaire va contre cette... c'est dommage. Elle va contre cette intuition. Ouais, okay.
Tu sais, Manu, si vraiment les mystiques te dérangent, il y a des sprays contre ça. Je veux dire... ça pose pas de problème.
Ouais,
des
mais
tapettes,
bon, à chaque fois que je viens à la barreau, j'aurai besoin d'une quantité incroyable de spray.
Ça va me la lumière. Ils sont attirés par la lumière, tu sais, le soir, il suffit de fermer les fenêtres, ça y a rien.
Ouais, et en même temps.
Je connais des gens, ça les empêche de dormir. Il y a un mystique dans la pièce, ils peuvent pas.
Tu parles à la nana qui a des trans sur scène au point de. Effectivement. Par l'expérience artistique, par le lien aux autres aussi, parce que c'est vrai que quand sur scène on se sent partir, c'est aussi parce qu'il y a le public derrière et qu'on vient de tisser un espèce d'énorme canal à énergie avec.
Et tu vois, c'est pour ça que je suis pas en train d'essayer de t'imposer ma vision du monde, je cherche juste à enrichir la tienne, tu vois.
Mais des fois le vocabulaire que tu plaques derrière est contre-intuitif par rapport à celui que j'utilise, et c'est extrêmement perturbant dans la communication.
Et puis
en fait,
il y a cette idée que tu vas enrichir son univers. C'est-à-dire en fait, ça peut apparaître comme étant moi, j'ai une vision du monde plus riche que la tienne, malgré tout.
Condescendante.
Et c'est un vrai problème quand on parle d'ethnographie, c'est qu'on a l'impression que l'ethnographe se situe au-dessus de la mêlée. Et enfin,
C'est... Bon, tu as, si tu apportes des éléments supplémentaires de savoir, ben, tu ne peux pas dire que tu n'es pas en train d'enrichir le savoir de la personne qui te lit. Quoi.
Oui, mais, alors, oui, mais pour une personne qui croit que la réalité existe et qu'il y a des faits et que les propositions y font référence, c'est-à-dire un défenseur en gros de la vérité correspondance, celui qui apporte des mensonges apporte de l'obscurité et donc n'apporte rien en fait.
Mais moi je suis aussi un croyant dans la vérité. Je suis un scientifique, hein. Je veux dire, je suis aussi un croyant dans la vérité correspondance. Hein.
Ouais, je sais.
Fondamentalement, dans mes travaux de recherche, quand j'affirme quelque chose, je le montre. Mais j'avais donc, simplement, c'est pas que ça. C'est ça le fond du truc. Mais tu vois, c'est que ça.
Il faudrait pouvoir réconcilier les zététiciens et, par exemple, des sociologues des sciences, par exemple, pour pouvoir.
Je suis pas sûr que ce soit.
Ouais. Ben, je sais pas. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec. Alors, Jean-Michel Abrassard, que je salue au passage, j'essaye souvent de lui expliquer en quoi Pierre Lagrange et lui sont sur des routes qui sont parallèles, qu'ils n'ont pas besoin de se foutre sur la gueule pour qu'ils peuvent coexister parfaitement et compagnie. Et ça c'est un grand. J'aimerais bien pouvoir leur montrer ça parce que moi, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'ils se battent comme des chiffonniers pour rien. Et ça m'énerve. Fabien, tu avais une question à me poser.
Pour les vrais archéologues du jeu de rôle. Qui lisait Silent Drift il y a fort fort longtemps.
Oui.
Il y avait
j'en suis.
Un jeu que Romaric avait
je
lancé.
Je ne l'ai pas abandonné.
Qui s'appelait.
Il est toujours en place. On pouvait le traduire par vide.
Vide, voilà. ça s'écrivait ouvrez les crochets, trois points, ouvrez les crochets.
Des parenthèses.
Et c'était des parenthèses.
C'était des parenthèses. C'est important parce que j'ai réutilisé ce symbole.
Et quand il
en avait
parlé, il y a des gens qui avaient eu des réactions absolument incroyables où ils parlaient de leur vie, ils parlaient de trucs simplement juste en lisant le jeu. Est-ce que tu peux nous reparler de ce jeu? Parce que j'ai l'impression qu'il a une espèce de parenté avec la tragédie de GJ 237B.
Oui, alors en fait, le principe c'était de créer un jeu qui était beau esthétiquement parlant parce qu'il était vide. Donc il y avait quelques phrases équivalent de quelques comment on appelle ça déjà des aphorismes et ce titre donc qui était vide. Et c'était un jeu qui se trouvait en quelques pages, en quelques clics en fait sur internet. Je sais même pas d'ailleurs si ce jeu est encore accessible aujourd'hui.
Tu l'as jamais mis sur le Silent Drift, il y était pas, hein, sinon je l'aurais téléchargé.
On pouvait cliquer en fait tu pouvais cliquer sur l'ensemble vide justement, tu pouvais cliquer dessus, enfin c'est pas l'ensemble vide, c'est des parenthèses et trois petits points, tu pouvais cliquer dessus et t'arrivais sur des pages blanches avec des mots du style ils ont voyagé jusqu'à un point et ce point les a détruits, etc. Enfin, si tu veux, je peux faire rapidement une recherche sur Internet et retrouver les phrases.
Ça serait cool, ouais.
Ok, alors je vais essayer de retrouver ça rapidement. Rapidement, pour continuer, oui, c'était parti d'une intuition, alors d'un film de merde qui s'appelle Little Buddha. Je sais pas si vous connaissez ce film, c'est vraiment une merde.
J'adorais ça quand j'étais jeune.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est un
film
d'ado.
Et à cause de ça, je l'aime toujours bien aujourd'hui.
Ouais, moi aussi, j'ai toujours une sympathie. Tu l'as revu récemment?
Oui, ben, enfin, évidemment,
moi,
depuis Buddhist Zen, c'est un peu différent.
Je l'ai imposé à Fly pour des raisons, justement. Je dis, c'est un film un peu honteux, c'est un sacré honteux. Putain, je viens de le dire dans les micros, je suis con. Putain, un secret honteux qu'on révèle à tout le monde, c'est vraiment très bête. Moi, c'est un film en fait qui m'a un peu, quand j'étais plus jeune, ça ne veut pas dire éveillé à la spiritualité.
Oui, moi, il me fait le même effet que les Thanatonautes de Werber. Quoi. C'est une échelle qu'il faut jeter une fois qu'on a grimpé dessus.
Ouais, donc là, on n'a pas Internet aujourd'hui parce qu'on a un problème d'encombrement sur les réseaux. Donc,
une autre fois, mais d'accord.
Une autre fois, mais voilà, j'arrive pas à retrouver le jeu. Mais en tout cas, voilà, c'est venu de cette intuition que le vide dans certaines
cultures... Parce qu'à un moment, il y a un personnage qui débarque dans une maison.
C'est très vide, c'est très beau. Voilà. C'est une maison, en fait, dans laquelle les gens n'ont pas encore emménagé. Donc, il n'y a que quelques caisses et quelques affaires. Et le type est là.
Il y a un moine, bouddhiste tibétain, je crois.
Il dit, c'est très vide, c'est très beau. Et donc, cette phrase m'a vraiment marqué. Je me suis dit, tiens, il faudrait faire un jeu, en fait, dont l'objet, en fait, est la... Justement, le plein du vide, c'est-à-dire comment la présence du vide donne une sensation, aujourd'hui je le traduirais comme ça, une sensation mystique de totalité bornée, etc., dont on a déjà eu l'occasion de parler au cours des podcasts. Et en fait, ce symbole, comme tous mes jeux en fait, sont reliés, ce symbole, on le retrouve aussi dans Sens Néant. Lorsque, à de nombreuses reprises, lorsque Classis érase certaines propositions d'Asinis. Donc ça dénote déjà en fait, l'absence. Voilà. Et il y a des tas de jeux.
Je me souviens que c'était du dessin.
Ça, je crois pas.
Et que quand tu faisais tu ne pouvais réussir ton action si tu faisais.
Je t'ai déjà entendu
zéro.
Dire ça dans les podcasts. J'ai rien dit parce que je ne m'en souvenais plus. Mais honnêtement, mon souvenir ne va pas dans ce sens.
Tu ne pouvais réussir ton action que si tu faisais un double zéro. Et si tu le faisais, les autres gens sortaient de la pièce d'un air de désapprobateur.
Ça me dit rien du tout. Mais peut-être que c'est quelque chose que j'avais, une règle que j'avais proposée.
On ira chercher ça sur ton.
Ou alors c'est quelqu'un qui m'avait proposé ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça me dit rien. Je me souviens que c'était juste quelques pages sur Internet qui menaient à c'est ça, ce symbole d'ensemble vide, etc. C'est tout.
Enfin, pour revenir à ce que je disais au départ, on est d'accord que là, ça touche aussi à la performance artistique.
Bah oui, mais moi, j'ai jamais douté que le jeu de rôle était un art, puisque l'un de mes principaux formateurs, c'est Frédéric Sintès. C'est-à-dire, en fait, la vraie question que j'ai envie de poser, c'est Frédéric Sintès est-il jaloux de ce jeu ? S'il l'est, c'est sûr que c'est une performance artistique. Non, mais moi, c'est chaque fois que je ressens de la jalousie pour un travail, je me dis ok, c'est un bon travail. Tu vois. Pour moi, c'est un signe, tu vois, c'est épidermique.
Une autre manière de dire la même chose, dans mon langage à moi.
Ah, je suis trop jaloux de ce jeu.
Est-ce que tu penses que ce jeu-là, comme ton jeu, voulait tous les deux créer du sacré ?
Alors, mais complètement, mais sens. En fait, tout à l'heure, je disais rien, mais quand tu disais il n'y a pas beaucoup d'expériences de jeu qui créent du sacré, excuse-moi, ouais, mais enfin, sens, c'est quand même pleinement.
Et j'ai pas dit que. Voilà. J'ai pas nié à
qu'est-ce,
sens
qu'est-ce
la capacité
qu'est-ce qui est sacré
à créer
dans
du
sens
sacré,
Ce qui est sacré dans sens, ce sont les cellulites, c'est la cellule. Ça a créé du sacré autour de la cellule, tu
ça
vois.
Ça crée de l'interdit,
donc,
ça crée de la fascination.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est sens, typiquement, c'est un jeu qui déjà.
Interdit soit, et fascination, je crois que c'est les deux. Ça fait partie des définitions centrales du sacré, y compris déjà chez Rudolf Otto, déjà chez les premiers théoriciens du sacré.
Et c'est exactement avec la rétention fascination que tu as mis en avant.
Exactement. Très bien. Avec Fred. Hein. J'avais développé la notion de fascination et c'est Fred qui a dit c'est rétention fascination et qu'il a comme ça développé cette résistance asymétrique. Confère le blog théorique limbique system. Et ce jeu-là, en fait, crée exactement du sacré puisqu'il y a cette porte fermée. Et t'as en même temps envie d'ouvrir pour et presque t'es forcé, comme disait Manu tout à l'heure, à ouvrir. T'as envie d'ouvrir pour voir ce qu'il y a derrière, pour faire l'expérience. Et en même temps, on te dit mais cette porte est fermée pour une bonne raison parce que il va y avoir de la souffrance si elle est ouverte.
C'est ouverte. Ouais. Souffrance d'ailleurs que tu ne peux pas analyser parce que ce n'est pas la tienne. Ces mécanismes.
Ouais,
pas...
c'est vrai. Voilà. Ce qui est pas propre au sacré. Hein. Tu peux te faire souffrir tout en apprenant dans le sacré.
Manu,
ouais,
tu,
donc quelque part, faire ça dans une boîte et se donner la possibilité de ne pas l'ouvrir, c'est quelque part pas une option du jeu. Parce que sinon, tu
ben oui
ça,
et non,
quoi.
Tu sais, il y a des lieux sacrés qui sont restés pendant très très longtemps. Le temple, il me semble que le temple original de Jérusalem, il y avait une pièce dans laquelle seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an et dans laquelle il y avait l'Arche d'Alliance, je crois, hein. Je me trompe peut-être. Mais et que l'Arche d'Alliance, il ne pouvait pas l'ouvrir. Si tu as vu le premier Indiana Jones, tu le sais. Et donc, si tu veux, il y avait des pièces qui sont dévolues à la fiction qu'est la divinité. À nouveau, je rappelle que pour moi, la fiction, c'est ni vrai ni faux. Hein. Donc, je ne suis certainement pas en train de désavouer les expériences ou les postures religieuses. Et tu peux enfermer.
C'est formidable ce jeu, putain. Il est vraiment formidable. Je me rends compte que je suis vraiment jaloux parce qu'en plus. Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu, Fabien. Je parle
pas du tout. Et il faut m'interrompre, hein, parce que.
Ça devient du délire dans ma tête parce que je me dis, mais putain, mais en fait, ce jeu fait mieux que Sens en 5 pages. C'est-à-dire, je pensais déjà que Vadémécom. En 100 pages, faisait mieux que sens du point de vue de la réflexion. Et là, je vois un jeu en 5 pages qui fait des choses dans la tête que j'attendais. Je suis jaloux comme un fou. Ce jeu est incroyable. J'espère vraiment si ce podcast peut vraiment aider à ce que plus de gens aident Benleman, il faut vraiment qu'il produise des jeux.
Je vais peut-être demander à Benleman si je peux traduire le jeu et puis.
Mais j'ai l'impression qu'il nous écoute. J'ai l'impression qu'il nous écoute parce que. Il a acheté le Val, Benleman.
Quand je lui envoie systématiquement les podcasts où on parle de ces jeux, hein, ça c'est clair.
Ah bah donc voilà, donc ouais. Donc
mais je sais pas si il m'a pas répondu, je sais pas s'il lit ses mails en fait, donc voilà. On verra bien.
D'accord, ok. Merci Fabien de nous avoir présenté ce jeu. Vraiment, merci. Bon, moi, je pense que c'est un jeu, je le refermerai jamais, quoi. C'est un jeu qui,
tu
qui
vois,
va
c'est
rester.
Ce que je te dirais. Ouais. Et l'expérience sacrée, de manière générale, c'est pour ça que c'est tellement. Et, moi, je continue à en parler pendant. Ça va être mon axe de développement pour le jeu de rôle pendant les 150 prochaines années, je pense. ça va être d'explorer la dimension du sacré et la dimension thérapeutique du sacré dans le jeu de rôle. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on. C'est une voie. Très très heureux d'avoir la chance de pouvoir l'explorer, que ce soit pas déjà fait ou pas trop déjà fait, parce qu'il y a tellement de choses formidables à découvrir là-dedans.
Merci Fabien, merci Emmanuel. Et t'avais des choses à rajouter ? J'ai vu refermer
non,
ton Zapbook.
Non, c'est bon, ouais, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. C'est chouette comme expérience.
C'est quand même chouette comme expérience, je pense. Évidemment, ça n'interroge pas ta conception réaliste et compagnie. Enfin, je sais pas comment tu le vis, toi, justement, en tant que. T'es un peu madame réaliste de la cellule, quand même.
Ouais,
donc,
un peu, ouais. Non, bah après, c'est sûr que je mets pas une réalité, une matérialité derrière cet organisme-là.
Mais quand même, tu sens la puissance du jeu, c'est ça qui est intéressant. Parce que moi, j'ai la sensation qu'un matérialiste pur et dur dirait ouais, c'est original.
Oui, mais ça... bien sûr, ouais, parce que l'émotionnel, il est présent, qu'elle soit là ou pas, ces bestioles. Après, c'est aussi parce qu'on a développé une capacité à faire en quelque sorte une autosuggestion et justement à se placer dans cet état où tu disais que de toute façon, tout devient matériel, tout devient sensible et que du coup, l'émotion, elle est là, elle est présente. Voilà. Après, concrètement, hein, on serait à la porte d'une autre planète et il y aurait des bactéries. Enfin, je vous aurais tous égorgé avec les dents pour pas qu'on ouvre la porte. Mmh. C'est clair et net.
Tu fais partie de ces gens qui justement luttent contre la pollution spatiale et compagnie. Et justement, enfin, je vois beaucoup de soins apportés aujourd'hui parce quand on est arrivé sur la Lune, on n'a pas du tout fait attention à ça les premières fois, et donc on a vraiment colonisé la Lune. Enfin, nos bactéries ont vraiment depuis complètement colonisé la Lune. Hein, c'est plus un. Et du coup, on a perdu aussi des moyens de recherche, des moyens importants de recherche. Et aujourd'hui, par exemple, pour Mars, il y a un soin vraiment méticuleux pour éviter, notamment quand on a découvert ces stridos là sur Mars et tout, il y a des gens qui commençaient à parler d'aller là-bas. On a dit, attendez les gars, c'est vraiment très compliqué en fait. Il va falloir tout stériliser parce qu'il faut surtout pas. Si on veut avoir un objet d'étude qui soit sérieux, parce que là on est typiquement dans la science qui pervertit son. Tu vois, le fait de regarder pervertit l'objet d'étude, quoi. Donc. C'est
juste pour. Je
recommande rapidement, vivement la lecture de la trilogie de Kim Robinson, Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue, parce que les questions philosophiques, sociales, politiques sont posées dedans, et notamment cette question-là, elles sont fondamentales et très bien menées.
Fabien. Juste pour la petite note, de la même manière qu'il n'y a pas d'être humain qui est indépendant du monde matériel, il n'y a pas d'être humain qui est indépendant du monde, je veux dire, fictionnel. Tu vois, tu peux parler d'un matérialiste pur, ça n'existe pas. Hein. On sait très bien que conscience qui serait purement rationnelle ne pourrait pas fonctionner. Hein. Ça, c'est une.
Pourquoi développe l'argument, parce que moi, il m'a beaucoup touché cet argument quand je l'ai entendu la première fois.
Alors, il y a plusieurs.
Faut jamais oublier qu'il y a des gens qui ont 16 ans, 17 ans qui nous écoutent.
Il y a plusieurs. Déjà, pour commencer tout de suite par les trucs, il y a un bouquin de Damasio, mais alors pas de Alain Damasio, hein, pas celui de la Horde du Contrevent, je ne sais plus comment il s'appelle de prénom, qui s'appelle L'erreur de Descartes, où il montre qu'en fait, les mécanismes cognitifs humains ne peuvent pas se passer d'émotions. Mais alors, je ne sais plus quel est l'argument.
L'argument, c'est de dire.
L'argument
que
précis. L'autre argument plus philosophique, c'est de dire qu'en fait, il n'y a pas d'objectif qui soit rationnel dans l'absolu. La rationalité, c'est le fait d'avoir un lien pertinent entre les moyens mis en œuvre et l'objectif. D'accord ? Tu peux vouloir être riche, mais ce n'est pas plus rationnel que de vouloir être un artiste, que de vouloir être célèbre, que de vouloir trouver la paix intérieure. Ça n'est pas rationnel. C'est peut-être ce que le monde te dit de faire, c'est peut-être ce que la société t'encourage fortement à faire. Tu vois, du genre, ah ben non, il faut être rationnel aujourd'hui et c'est l'argent qui dirige le monde. Ben non, ce n'est pas rationnel. En revanche, si tu me dis, je veux devenir riche et que tu veux vivre exclusivement comme poète slammer, c'est pas rationnel. parce que le moyen et la fin mis liés entre les deux. Pardon, c'était pas. Je voulais pas en faire. Je voulais pas que ça sonne comme
non,
une.
Non, mais c'est intéressant.
C'est pas. Ça n'est pas rationnel. Donc il n'y a pas de rationalité absolue. Il y a un moment, il faut se fixer des objectifs et ces objectifs, il y a.
Il y a des gens qui se prétendent résolument matérialistes, Fabien. Peut-être qu'ils n'ont pas conscience que la fiction a de l'impact sur leur réalité.
Oui.
Mais il y a des gens qui le prétendent.
Ouais,
ouais. Manu.
Ouais, enfin, il me semble qu'en termes de rationalité, on ne peut pas faire plus simple et plus rationnel que la survie, quoi. Dans la mesure où tu pars du principe qu'il y a un risque, alors, ou une chance, ou plus ou moins grand, qu'au moment où tu meurs, il n'y ait plus rien derrière. Ça veut dire que du coup, tout le reste de tes choix peut devenir rationnel dans la mesure où c'est éviter pendant le plus longtemps possible cette échéance qui est carrément dévastatrice.
Là, je pense que tu es en train de prêter une intention au monde physique, à la nature, qui n'existe pas.
Pas une intention, mais pas à la nature, mais à nous en tant qu'êtres conscients de notre finitude.
Mais si, tu sais, il y a des philosophes qui ont développé l'idée que. Tu sais, c'est la malédiction dans ces sirènes, je crois. Le plus grand bonheur de l'être humain, c'est de n'être jamais né. Et le deuxième plus grand bonheur, c'est d'être sur le point de mourir. Il y a des gens pour qui c'est pas du tout évident ce que tu viens de dire. Je pense à quelqu'un comme Schopenhauer. Schopenhauer termine le monde comme volonté et comme représentation en disant finalement, les vrais nihilistes, c'est les gens qui sont attachés au monde parce que le monde est vide et sans importance et que la seule vérité qui vaille la peine. Mais lui-même, en disant ça, évidemment, il est dans sa propre fiction. Hein. Je te dis juste qu'il y a toujours des fictions et que le monde est sourd. Il ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Il ne nous donne pas de but à suivre.
C'est une conversation hautement philosophique, poétique et existentielle.
Et métaphysique. Ouais, parce que, ouais. parce que moi-même...
Vous, attention, parce que là, ça touche aussi à vos convictions et oui. très personnelles. Et c'est le genre de conversation qu'on peut avoir pendant très très longtemps et durant toute une vie. Je pense que vous n'avez pas fini d'échanger sur ces points.
Et moi-même, je sais qu'en disant tout ça, je me place dans un monde sans Dieu. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui pense que Dieu existe, Dieu... Si Dieu existe, c'est-à-dire que le sens précède l'existence, c'est-à-dire que Dieu a créé les choses vraisemblablement a créé le monde pour quelque chose, peut-être le fromage.
Est-ce que tu penses qu'on est toujours en train de jouer à The Tragedy of...
Évidemment, parce qu'il a... Comme il n'y a pas de limite en réalité au jeu, tu vois, il te
c'est
crée
comme
quelque
le jeu,
chose.
En fait. C'est vraiment comme le jeu, je trouve. Il y a quelque chose de semblable.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui pose la question de qu'est-ce que c'est que les limites de la partie de jeu de rôle.
Ouais, et même les limites du jeu, moi, je trouve.
Et qui te dit au bout d'un moment, bien, en fait, ces limites n'existent pas. Et à partir du moment où tu as joué à un jeu, il t'influencera toute ta vie. Quoi.
C'est une très belle conclusion pour ce podcast. Merci Fabien encore une fois. Merci Emmanuel. Merci Maxime aussi, qui même si il nous a quittés, reste un petit peu parmi nous.
Mais oui, il est toujours là.
L'écho, tout ça.
Merci Ben Lehmann et Caitlin voilà. Bell.
Bravo,
vraiment.
Franchement, bravo à vous deux pour ce jeu formidable. Portez-vous bien et surtout, jouez bien, c'est ça qui compte. Allez, salut, salut.
Bye bye.